Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un grain à moudre spécial jusqu'à 20h dans le cadre de la troisième édition de la Nuit des Idées. Nous sommes donc au Centre Pompidou à Paris.
Bonsoir à Rigardette, bonsoir à tous.
Et nous ne serons pas trop de deux ce soir pour vous présenter cette émission spéciale avec de nombreux invités qui vont intervenir en duo, des débats de 20 minutes à chaque fois pour répondre à quelques questions que nous avons imaginées pour cette année 2018.
Oui, cinq questions. À quoi aujourd'hui dire non ? Doit-on désexualiser les rapports humains ? Va-t-on faire voter les arbres ? Faut-il s'interdire Facebook ? Et la première question que vous posez à vos deux invités, avons-nous quelque chose à faire pour la nation ?
Et pour introduire ce débat, je vais commencer par une citation. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que lui, la nation française. Et dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour la nation. Alors, vous aurez peut-être reconnu, non pas dans mes intonations, mais plutôt dans les mots prononcés, ceux d'Emmanuel Macron. C'était le 31 décembre dernier, lors de ses vœux aux Français. Et nous avons justement voulu prendre au mot le chef de l'État en réfléchissant à ce que nous pourrions faire d'utile pour la nation en 2018 et en le faisant avec nos deux premiers invités. Alors, je précise tout de suite que parmi nos deux invités, il devait y avoir ce soir Eugénie Bastier, qui est journaliste au Figaro. Il se trouve que des individus pas très bien intentionnés avaient appelé à manifester contre sa présence ce soir. Elle a préféré ne pas venir, ce qu'on peut tout à fait comprendre, même si c'est un petit peu désolant. Voilà, ça traduit aussi un petit peu ce qu'est aujourd'hui le débat public en France. Mais c'est une raison pour remercier à la puissance 10 celles qui n'ont pas la remplace, mais qui a en tout cas accepté de venir pour répondre à cette question. Avons-nous quelque chose à faire pour la nation ? Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po. Vous avez publié « Les bûchers de la liberté ». C'était chez Stock en 2016. Et pour discuter avec vous, Bakary Sacco, bonsoir.
Bonsoir.
Animateur de quartier à Paris ou militant associatif, je ne sais pas quelle est la terminologie que vous préférez. Vous aussi, vous avez publié un livre, c'était en 2015 aux éditions Face Cachée, que vous avez contribué à créer, et qui s'appelait « Je suis ». Alors, qu'est-ce que je peux faire pour la nation ? Je vais vous mettre à l'aise tout de suite, enfin, au cas où vous ne le sauriez pas. Moi, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce que c'est aussi votre cas, Anastasia Colosimo ?
Je pense que c'est un peu pareil, je me la suis jamais posée comme ça, mais je pense qu'il y a une raison à ça, c'est parce que c'est pas du tout dans l'ADN français en fait. Cette phrase de « demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation », c'est très américain. Ça renvoie au self-made man, ça renvoie au self-help, aidez-vous vous-même, aidez la nation, c'est vraiment les pionniers américains. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui est dite par Kennedy, que Macron lui pique vraiment délibérément. Et parce que la conception française, c'est plutôt la solidarité, c'est plutôt, oui, il y a des obligations évidemment, mais l'État gère la redistribution, l'État gère la solidarité, c'est pas du tout un rapport d'individu à individu.
Alors, nous sommes déjà 2 sur 3 à ne pas vraiment nous être déjà posé cette question. Est-ce que c'est aussi votre cas, Bakary Sacco ? Et comment est-ce que vous avez perçu cette interpellation du chef de l'État ?
Alors, nous, cette question, on se la pose bien au contraire, depuis le plus jeune âge. On se pose cette question qu'est-ce que nous pouvons faire pour la nation ? Parce que la première réflexion que nous avons eue, c'est qu'est-ce que la nation fait pour nous ? Quand vous êtes un jeune garçon de 10 ans, vous habitez sur le 19e arrondissement, dans des quartiers populaires, donc Stalingrad, Riquet, Cambrai, et que vous habitez dans des appartements donc insalubres, avec un fort taux de délinquance, des classes sociales qui sont complètement explosées, avec des toxicomanes qui habitent votre immeuble, la police qui fait une partie de son travail et pas une autre, vous grandissez dans un paradigme qui est celui de « est-ce qu'on m'aime en tant qu'enfant ? Est-ce qu'on me reconnaît dans mon individualité, dans ma citoyenneté ? Quelle est ma part de responsabilité dans cette société, mais aussi quelle est la part de la responsabilité de la société sur moi ?» Et donc, de ce fait, cette question est obligatoire. Elle est même, à un moment donné, essentielle dans notre construction. Et elle est la finalité du chapitre 4 de mon livre, où je reprends justement la citation de Kennedy, qui dit « Ne pensez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la nation. » Et c'est parce que dans notre paradigme, c'est une question qui est devenue essentielle pour nous à poser pour que nous puissions être partie prenante des enjeux politiques.
Anastasia Colosimo.
Je dirais qu'en fait, il y a quelque chose d'assez Difficile justement à s'imaginer qu'on en soit arrivé là en fait, parce que c'était pas du tout le but au départ. Au départ, c'est vraiment pas du tout le but. Et si on en vient justement
le but,
à se demander,
vous voulez dire, le but de quoi ?
C'est-à-dire que vraiment, la France est constituée très différemment. Il y a vraiment l'idée de la communauté nationale qui prime très fortement. Il y a vraiment l'idée que on est une collectivité et que l'individu se fond dans cette collectivité. Il y a vraiment une idée normalement de redistribution, d'intégration qui est extrêmement forte. Et donc justement, quand on en vient à se dire, mais en fait, la seule initiative qui peut valoir, c'est une initiative quasiment privée, individuelle, ça veut dire que ça démontre qu'il y a un déficit de l'État ou qu'en tout cas, l'idéal était peut-être magnifique, mais que dans la réalité, dans la concrétisation de cet idéal, y a des failles.
Mais ça dépend peut-être aussi de la façon dont on répond à cette question, c'est-à-dire par rapport au constat que vous faisiez il y a un instant, Bakary Sakho, la réponse, elle était de se dire, je me prends en charge moi-même, mais sans forcément penser à ce que peuvent apporter mes actions au collectif, ou bien est-ce que c'était aussi l'idée de dire je dois d'autant plus peut-être contribuer à participer à cette communauté nationale parce que je m'en sens rejeté davantage que d'autres.
Les deux, parce que non seulement vous n'avez pas le choix dans l'environnement dans lequel vous êtes, il faut bien vivre. Il faut sortir de la survie et vivre, il faut consommer, il faut participer, il faut aussi partager et vivre les émotions, il faut vivre aussi les peines de ce pays, parce qu'on appartient à ce pays. Vous avez en face de vous Bakary Sakho, ma couleur de peau est noire, donc vous savez que je suis automatiquement originaire d'Afrique, mais je suis né ici. Ma langue maternelle, c'est la langue française. De ce fait, je suis partagé entre deux cultures. Ma culture d'origine, celle que mes parents m'inculquent à la naissance, et puis la culture du pays d'accueil. Mais c'est même plus un pays d'accueil pour moi, c'est mon pays de naissance.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Bakary Sakho, que du fait de votre couleur de peau et de vos origines, on vous en demande peut-être davantage, justement, de ce que vous pouvez faire pour la nation, parce que vous êtes peut-être moins considéré comme y appartenant.
Mais peu importe en réalité qu'on m'en demande plus ou moins. Vous savez, ça devient une question de choix. D'abord, c'est une question de nécessité. Après, c'est un choix. La nécessité, c'est de se dire, même si dans ce système, il y a de la discrimination, de l'exclusion sociale, des inégalités dès l'école, entre un collège du 19e arrondissement et un collège du 5e arrondissement, vous avez cette inégalité-là qui existe et cette exclusion dès l'école de la République. Ensuite, c'est un choix. J'ai 37 ans, ça fait 20 ans que je suis militant associatif. En 20 ans, je n'ai jamais bénéficié d'aucun financement, c'est-à-dire je n'ai jamais été salarié de structure, parce que je souhaite aux autres ce que je me souhaite à moi-même. Donc ça devient après, d'abord la nécessité, ensuite un choix.
Alors être militant associatif, ça peut justement permettre de répondre en partie à cette question. Qu'avons-nous à faire pour la nation ? Militer dans des associations, ça en fait partie. Si je vous demandais, Anastasia Colosimo, qu'est-ce que vous avez fait, vous, aujourd'hui, pour la nation ? Vous répondriez comment ?
On dirait un peu une question de jeunesse communiste.
Je ne sais pas, je n'ai pas fréquenté les jeunesses
communistes.
Et vous,
vous avez fait quoi aujourd'hui pour...
Peut-être le fait déjà de venir participer à ce débat.
Il y a ça. Enfin, il y a aussi le fait qu'en France, on peut aussi... Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'on peut se targuer du fait que l'État a quand même une grande place. On a quand même un pays où il y a énormément de fonctionnaires. Donc, il y a quand même la fonction publique, c'est un engagement très fort pour la nation. Il y a aussi beaucoup de fonctionnaires qui vivent des situations compliquées. Il y a une certaine abnégation, pas tous évidemment, mais donc il y a de l'engagement énormément. Et en même temps, il y a aussi sans doute une crise de l'engagement à un niveau un peu plus méta, parce que il y a un manque de patriotisme, il y a un manque aussi tout d'un coup, s'engager pour la nation, ça devient quasiment absurde. On comprend pas très bien, et c'est quoi cette France, et quelle est cette France pour laquelle on s'engage. Donc quand il y a des initiatives, cette question elle se pose toujours de manière extrêmement forte. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez dû vraiment le ressentir sur le terrain, de cette question de dire, mais alors pourquoi est-ce que vous le faites, et est-ce que la France vous le rend bien, et ça, je pense que là, il y a une véritable question.
Bakary Sakho.
Là, il y a, vous voyez, vous avez, tout à l'heure, ma collègue disait, les idées de ce pays. Nous, nous vivons le concret. Et le concret, c'est qu'il y a les grandes idées, l'idéologie, la philosophie, il y a ce que les gens vivent sur le terrain. L'engagement devient de suite automatique. Qu'est-ce que je peux faire pour la nation ? Mais en réalité, la personne qui pose cette question, déjà, d'où vient la question, tout de suite, il faut savoir à qui est-ce que vous la posez. Quand on pose la question, chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, de qu'est-ce que je fais pour la nation ? Mais la réponse est plutôt assez simple en réalité, et elle est individuelle. elle est individuelle parce que, à quel moment, lorsqu'il y a un débat public, lorsqu'il y a un engagement, lorsqu'il y a un souci dans ce pays, je prends le temps de cette réflexion et la mise en place d'une action. Les idées, c'est une chose. On fait de la philosophie, on fait des débats de café, des débats de bistrot. Et ensuite, derrière, il y a l'exemplarité. Comment est-ce que les gens s'appuient sur ce que nous faisons pour pouvoir le reconduire, même si nous ne sommes pas présents? Et c'est ce qu'il y a d'essentiel. Quel héritage nous tirons aujourd'hui des actions passées? C'est ça qui est important. À partir du moment où nous sommes dans ce paradigme-là, en réalité, chaque individu, quel que soit son niveau d'engagement, est engagé pour la nation. Maintenant, derrière, sur la question politique, c'est toujours qui pose la question et quel est son niveau d'exemplarité.
Anastasia Colosimo, vous évoquiez la question du patriotisme. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, l'engagement pour la nation, ça passe forcément par le patriotisme ?
Disons que c'est une question un peu compliquée et qu'il faut remettre dans un contexte historique, c'est-à-dire que le nationalisme a eu le vent en poupe quand même pendant longtemps dans l'histoire européenne, et on a vu aussi les méfaits du nationalisme. Il y a un nationalisme qui, quand il est poussé à l'extrême, peut avoir des conséquences terribles, et donc il y a eu, je pense par réaction aussi, un très fort recul du nationalisme, voire même une critique très forte du nationalisme qui est passée aussi par un abaissement très fort du patriotisme. Et il me semble que, il me paraît même quasiment évident que si on veut agir pour la nation, c'est la définition même de la nation, nous avons non seulement une culture commune, mais nous avons aussi un projet commun. Donc pour s'engager et pour participer à l'idée de la nation, il faut être au moins un tout petit peu patriote.
S'engager pour la nation, ça veut aussi pouvoir dire être capable, le cas échéant, de la défendre. Vous parlez du nationalisme. Le nationalisme, on le sait, ne conduit pas qu'à la guerre, mais enfin, ça conduit notamment à la guerre. On est cette année 2018 dans l'année de du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Est-ce que c'est une question qui se pose, à votre avis, aujourd'hui, ou en tout cas qui mériterait d'être posée, c'est-à-dire jusqu'où je suis prêt à aller, peut-être, pour défendre le pays auquel j'appartiens, Anastasia Colosimo?
Je pense qu'on en parle aujourd'hui très différemment de la manière dont on aurait pu en parler il y a 2-3 ans. Les attentats qu'on a vécu contre Charlie Hebdo, contre le Bataclan, ça a été aussi un moment pour toute une jeunesse qui a vécu justement très loin de l'idée de défendre son pays, de mourir pour son pays, de mourir pour ses idées, qui tout d'un coup s'est réveillée, qui s'est rendu compte que malheureusement, et c'est le cours du monde et c'est l'histoire aussi des nations, c'est l'histoire des pays, il y a un moment où on peut être confronté au fait que c'est une question de vie ou de mort, et qu'il y a des idées qu'on préfère à d'autres, et qu'il y a des idéaux qu'on préfère à d'autres. Donc je pense que pour notre génération, la question s'est posée de manière extrêmement frontale, qu'on s'y attendait pas du tout, et qu'elle a ravivé aussi sans doute une flamme et une fierté qui avait aussi un peu disparu.
Votre génération, c'est celle des 20-30 ans, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas complètement, enfin qui connaîtraient pas votre âge. Bakary Sakho, sur cette question de jusqu'où pousser cet engagement pour défendre l'idée que vous faites de la nation, pour défendre tout simplement votre pays. Est-ce que c'est là aussi une question qui a pu se poser? On sait que, par exemple, comme l'évoquait Anastasia Colosimo, après les attentats de 2015, l'armée a recruté beaucoup plus de volontaires. On parle même aujourd'hui, d'ailleurs, de rétablir un service national. Alors, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemblera véritablement. Manifestement, ça ne sera pas un service militaire. Mais comment est-ce que vous répondez à cette question?
Vous savez, il y a tout un contexte sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir répondre à ce type de questions. J'étais aux États-Unis il y a une dizaine d'années, et dans un quartier de Détroit, vous aviez toute une génération de jeunes noirs américains qui se sont engagés dans l'armée. Et donc, de mon point de vue, de là où j'étais, je me suis dit, ce sont des gens qui s'engagent pour leur pays. La réponse n'était pas du tout celle-là. C'était pour sortir des ghettos dans lequel il y a de telles discriminations que les jeunes noirs n'avaient que comme seule possibilité sortir de l'Amérique en s'engageant dans l'armée. Est-ce qu'en France, on est aussi dans ce contexte-là? Je ne sais pas, mais je dis, il y a des contextes. De là où moi je suis, encore une fois, toujours je parle pour ma propre personne, oui, il faut aller le plus loin possible lorsqu'on doit défendre sa nation, défendre son environnement, défendre ses concitoyens. Mais toujours dans la réflexion, toujours dans l'idée de se dire, mais qu'est-ce que nous avons loupé et quel héritage nos anciens nous ont laissé? Comment se fait-il qu'en 2018, là où le monde est un, le monde est aujourd'hui unipolaire, l'Internet, les générations grandissent ensemble, que mes parents et que vos parents ne soient pas connus parce que l'immigration est toute récente? C'est une chose, mais nous avons fait les mêmes bancs d'école. Nous vivons le même pays, nous parlons la même langue, nous partageons même presque la même religion. La religion de celle des idées et du débat. Mais comment se fait-il qu'en 2018, nous soyons encore dans cette réflexion de savoir quelles sont nos valeurs communes? Nous avons loupé quelque chose, et ce quelque chose, nous n'avons fait que l'hériter. Donc aujourd'hui, la discussion entre vous et moi, c'est est-ce que nous allons laisser comme héritage un conflit pour nos enfants, ou est-ce que nous allons nous entendre malgré nos différences?
Puisque vous évoquez Internet et les réseaux sociaux, est-ce que ça ne restreint pas un petit peu le cadre justement que de parler de nation aujourd'hui, Anastasia Colosimo? Est-ce que la réflexion, elle ne doit pas transcender justement les seules frontières nationales et être beaucoup plus globale, beaucoup plus internationale?
En fait, ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse, c'est que la mondialisation a attaqué très fortement justement cette idée de nation, l'internationalisation de l'information, et aussi quelque part l'amenuisement des différentes cultures, et la réaction a été justement très nationaliste, très forte. On le voit en France, on le voit en Espagne avec la Catalogne. Donc au contraire, et je pense que d'ailleurs ce qui a été inscrit au plus profond de ça, c'est l'idée qu'on veut une transmission, en fait. On veut une histoire, on veut faire partie d'une humanité historique. En fait, c'est l'histoire de nation. Et surtout quand c'est une nation comme nous la concevons, c'est-à-dire une nation voulue, une nation construite, une nation justement de la discussion et de l'ouverture, dans ce cas-là, évidemment qu'on veut ça. On veut cette transmission historique. Et je pense que cette question d'héritage et de transmission, elle est vraiment au fondement quoi, de ce concept de nation.
Sur cette question d'héritage, quel serait votre héritage à vous, alors Bakary Sacco, qui vous a peut-être permis de vous construire comme appartenant à cette nation française?
Mon héritage est multiple. Merci d'avoir fait la copie.
Voilà, alors pour les gens qui sont ici voilà, au centre Pompidou, c'est la couverture de votre livre où on vous voit dans trois habits différents. Un qui est bleu, un qui est blanc, un qui est rouge. Donc évidemment, on pense au drapeau français.
Exact. Et donc, et là, l'héritage, il est multiple pour moi. Et ce n'est pas de la schizophrénie. Je suis véritablement un Africain originaire d'Afrique de l'Ouest, de la communauté des Soninké. Je suis de confession musulmane. J'ai étiré aussi là une éducation et des valeurs. Je suis un jeune français issu des quartiers populaires. Là aussi, je tire héritage. Ma culture est là. Il y a des valeurs à l'intérieur. Donc la question de la nation, pour moi, ça serait me mettre en difficulté que de me dire de choisir. Choisir entre mon père, qui est l'Afrique, ma mère, qui est la France, et ma famille, qui sont les quartiers populaires. Ça serait compliqué pour moi de me mettre dans cette situation. Je suis un tout. Pas un schizophrène, je prends le meilleur de chaque moment de mon éducation et j'essaie de la partager au mieux avec mes semblables.
Anastasia Colosimo, on n'est pas chez le psychanalyste, mais est-ce que vous sentez vous aussi des tiraillements justement entre de multiples identités, ou en tout cas une construction qui viendrait de différents endroits ou de différentes identités en tout
oui,
cas.
Oui, moi je suis assez peu française en fait. Et d'ailleurs le français n'est même pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle c'est le russe. Et donc du coup avec des histoires différentes, mais moi aussi ça a été une construction pour moi et ça a été aussi une découverte, et c'est pour ça que je pense que c'est exactement ça qui manque, c'est de dire mais il n'y a pas de problème, en fait c'est ouvert, tout le monde peut rentrer. Mais alors ce qui est aussi évident, et ça on en a parlé, c'est que oui, il y a quelques obligations. Il y a aussi un échange dans la nation. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment le corps social, quoi. Il y a un échange, il y a un contrat social. On peut pas exiger des choses si on remplit pas aussi sa partie du contrat. Et ça, ça reste quand même très fort.
Tout le monde peut rentrer. On peut aussi avoir envie d'en sortir. Il y avait eu en 2012, en septembre, dans Libération, une tribune qui était intitulée Jeunes de France, votre salut est ailleurs. Barrez-vous. Qui appelait donc les jeunes Français à aller tenter leur aventure ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose d'abord qui l'un et l'autre a pu vous tenter? Et est-ce que faire quelque chose pour la nation, ça veut dire aussi y rester? Anastasia Colosimo.
Je ne pense pas qu'il doit y avoir d'obligation morale non plus très forte. Les gens qui ont envie de partir peuvent partir. Je pense que c'est aussi beaucoup des trajectoires personnelles. Je pense qu'aussi, par exemple, le service public, c'est une vocation. Et même, quelque part, le fait de faire de l'associatif, c'est une vocation. Je pense que tout le monde ne peut pas agir et ne peut vouloir agir de la même manière. Ensuite, moi, cette tribune, elle m'avait évidemment un peu choquée parce qu'on a envie de dire mais ce pays qui m'a tant donné, et il m'a donné la sécurité, même, vous voyez, bêtement, la sécurité sociale, l'éducation, un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'au moment où j'ai reçu tout ça, moi, je prendrais le parti de partir et de me dire, merci beaucoup, au revoir.
Bakary Sacco, ce sera la conclusion.
Alors moi, c'est assez simple sur cette question-là. Nous avions, et j'avais un rêve, effectivement, comme tout jeune. C'est un de mes rêves, c'était de vivre celui aux États-Unis. Et j'ai découvert le cauchemar américain dans la communauté afro-américaine. Et de retour en France, on est en 1997 à l'époque, il y a la Coupe du Monde qui ne me fait pas du tout vibrer à ce moment-là parce que moi je vis le cauchemar dans les quartiers français. Par contre, il y a une chose qui a été ma détermination, c'est celle de travailler avec des gens sur lesquels vous partagez des valeurs, avec lesquels vous avez la même idéologie. Et donc c'est se battre pour atteindre vos différents objectifs et faire en sorte que quitter ce monde, mais le quitter en laissant une trace.
Eh bien, merci beaucoup, Bakary Sako et Anastasia Colosimo, pour ce premier débat. Avons-nous quelque chose à faire pour la nation ? Et ce soir, on est dans une forme de compétition sportive, puisqu'on enchaîne tout de suite avec Julie Gacon. Et la prochaine question, les prochains invités, faut-il s'interdire Facebook ?
Chaque nouvelle année démarre par une bonne résolution. Pour Mark Zuckerberg, ce sera réparer Facebook. Étape des travaux, énoncée comme autant de cases à cocher. Débarrasser le réseau de la moindre trace de haine ou d'interférence des États et faire en sorte que le temps passé par ces 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui sur ces pages ne soit pas du temps perdu. Près de 15 ans après sa création, la machine semble avoir échappé à son créateur. D'anciens responsables de Facebook clament aujourd'hui aux efforts qui l'ont interdit à leurs enfants. Et nous, faut-il prendre les devants et s'interdire Facebook ? Deux invités pour en débattre. Bonsoir à vous deux. Dominique Honora, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef du service économie à l'Obs, spécialiste des questions numériques. Et vous êtes ici avec Gilles Babinet. Bonsoir.
Bonsoir.
Entrepreneur, ancien président du Conseil national du numérique et digital champion. Pour le dire vite, vous êtes consultant numérique auprès de la Commission européenne. Alors avant de savoir s'il faut s'interdire Facebook, encore faut-il savoir si on le peut. Et c'est une expérience extrême que vous vous êtes infligée, Dominique Nora, en octobre dernier. Une semaine entière sans utiliser un seul service de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pour nous, occidentaux, c'était comme se passer d'eau courante.
C'était compliqué, surtout en tant que journaliste, parce que ce sont des outils qu'on utilise au quotidien. Et en résumé, j'ai trouvé ça très facile sur l'informatique, parce qu'avec Linux, on a un système libre, en fait, qui est indépendant de Microsoft. Et il y a aussi des messageries e-mail qui sont libres et qui ne pistent pas vos données, qui ne les retiennent pas, qui ne vous profilent pas. En revanche, là où il y a un vrai problème, c'est sur le smartphone. Le téléphone mobile, parce qu'on est obligé de revenir à un téléphone mobile pas smart du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à Android qui appartient à Google. Et on a toutes ces applications, dont Facebook, qui sont devenues, pour beaucoup de gens, en fait, le premier moyen d'information, le premier moyen de joindre ses amis, etc. Donc, j'ai trouvé ça assez difficile sur tout ce qui était applications et smartphones, puisque j'ai dû revenir à un téléphone à clapet, c'était l'enfer pour envoyer des SMS, etc.
Récupérer vos contacts.
Mais je dois dire qu'il y a une initiative française, je voudrais souligner, d'un OS mobile libre qui s'appelle Hello, E-E-L-O, et qui vient de faire une levée de fonds sur Kickstarter, qui a approché les 100 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se libérer en fait des GAFAM.
Alors Gilles Babinet, j'ai vu que vous n'étiez pas très actif sur Facebook. On peut être digital champion et pas être très assidu sur les réseaux sociaux.
Non, je suis beaucoup plus sur Twitter en réalité. Et j'ai connecté mon Facebook à Twitter, ce qui fait que tout ce que je poste sur Twitter va sur Facebook. Et je me suis un petit peu éloigné de Facebook parce que je trouve que les vidéos de chats ne m'intéressent qu'assez peu, en fait, pour tout vous dire.
Vous aviez assez peu de temps pour les vidéos de chats.
Oui, le filtrage qu'on peut faire sur Twitter, pour ce que je fais, c'est-à-dire je m'intéresse surtout au sujet numérique, me semble beaucoup plus efficace.
À quoi ça vous sert dans la vraie vie, Facebook ? Et à quoi votre vie sur les réseaux sociaux vous sert dans la vraie vie ? Est-ce que vous avez réalisé qu'après utilisation prolongée des réseaux sociaux, vous êtes devenu plus dégourdi, plus à l'écoute, plus gentil, je ne sais pas, meilleur cuisinier ? Qu'est-ce que ça a impacté dans votre vie privée ?
Alors, si je peux commencer, en fait, j'ai un usage assez schizophrène de Facebook, c'est-à-dire que j'ai un profil Dominique Nora, qui est mon profil, au fond, professionnel, ouais, sur lequel j'accepte tout le monde.
Que chacun note,
lequel,
voilà.
Et sur lequel, au fond, je fais beaucoup d'émissions, c'est-à-dire la promotion des articles de l'Obs ou de mes propres articles ou des choses que je trouve intéressantes en général dans la blogosphère. Et j'ai un profil privé dont je ne donnerai pas le nom puisqu'il est privé, qui est réservé à mes enfants, mes neveux et les très très proches. Voilà, et je scinde complètement. Et sinon, le réseau dont je me sers le plus aux professionnels, c'est LinkedIn, qui est finalement beaucoup plus professionnel, et Twitter, comme vous, pour la veille par rapport au sujet qui m'intéresse, qui est beaucoup plus, je trouve, riche. Quand on s'intéresse à un sujet, on peut suivre des gens qui sont les experts de ce sujet et on arrive à lire des articles qu'on n'aurait jamais lus, alors que sur Facebook, c'est effectivement pollué par des tas d'intérêts beaucoup plus frivoles, voilà, qui aux professionnels ne m'intéressent pas.
Gilles Babinet ?
C'est assez proche, en fait. Effectivement, je trouve ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'on parle à qui on veut, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible auparavant.
Pour peu que les personnes se soient inscrites ou vous êtes demandé comme amis.
Vous passez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, et vous avez presque toujours la capacité à rejoindre des gens. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça peut m'arriver de parler vraiment au sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle dans la même journée, alors que je ne les avais pas rencontrés et je n'avais jamais eu d'interaction avec eux. Le jour précédent. Ça, c'est quand même, je crois, quelque chose qui est tout à fait merveilleux. C'est-à-dire la capacité, finalement, à réduire complètement la dimension qui est l'espace et faire en sorte que, par centre d'intérêt, on puisse contacter absolument tout le monde, que vous soyez passionné d'apiculture urbaine, de physique quantique ou encore de blockchain, vous pouvez faire ça. Et ça, je crois que, quelles que soient les critiques, nombreuses d'ailleurs, que l'on peut faire à l'égard des réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas mentionner cette dimension-là parce qu'elle a changé notre monde de façon irrémédiable.
Je voudrais dire aussi, pour nous, on en a un usage très professionnel, mais pour les jeunes, c'est un peu le centre de leur vie amicale, affective. Et quelquefois, c'est un objet d'ailleurs de harcèlement, etc. Donc je trouve que ce qui manque dans le système éducatif français, c'est une éducation... Une hygiène numérique, comme on dit en Estonie, qui est beaucoup plus avancée que nous dans la numérisation de sa population, où on apprendrait à l'école à prendre des distances par rapport à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, et surtout apprendre aux jeunes qu'il ne faut pas livrer aux réseaux sociaux leur intimité, parce que ça peut se retourner contre eux un jour.
Dominique Nora, vous êtes journaliste. Est-ce que s'interdire Facebook, ce serait pas salutaire pour tous les journalistes de se l'interdire au moins quelques temps et d'éviter ce miroir grossissant que peuvent être les réseaux sociaux qui font naître des polémiques qui en fait n'intéressent que 10 personnes, ne parlent souvent qu'à des convaincus dans des groupes de personnes qui ont des intérêts communs?
Alors, Facebook a beaucoup d'inconvénients. Moi, je suis pas ni pour le boycott, ni pour l'interdiction. Je suis pour une utilisation raisonnée, une prise de conscience des dangers et des dérives de Facebook. Alors, vous parlez des fake news, on a beaucoup parlé de la manipulation de Facebook par la Russie ou par des intérêts extrémistes comme les islamistes. Il faut savoir que Facebook, quand même, est en procès aux États-Unis pour complicité d'attentats islamistes. Il y a des familles de victimes des attentats à Nice ou à Miami qui ont attaqué Facebook en disant mais c'est sur Facebook que sont radicalisés les gens qui sont venus tuer mes proches, etc. Donc il y a beaucoup de dérives. Donc il faut en prendre conscience. Facebook et Mark Zuckerberg lui-même en a pris conscience un petit peu tardivement, mais on voit dans ses vœux 2018, qui sont peut-être des vœux pieux, on va voir, mais qui veut... En fait, réorienter Facebook vers son objet originel qui était connecter les gens, les amis, les proches, servir le lien social. Or, cet outil a été quand même dévoyé, à mon sens, par la marchandisation de nos données à outrance et aussi est devenu une source d'information, mais biaisée, parce qu'il a biaisé le débat démocratique dans les élections, etc. Donc, je ne suis pas du tout pour l'interdiction, mais je suis pour une utilisation raisonnée et pour une régulation, mais on peut en parler, par l'État de ces plateformes.
Évidemment, la question des données personnelles est toujours en tête. Ça ne doit pas être évident, Dominique Nora, de quitter celui ou celle qui nous connaît le mieux, ne serait-ce que pour une semaine, Facebook, qui, sur la base des likes, s'est fait une idée de notre orientation sexuelle, de notre religion, de nos opinions politiques, de notre intelligence, même notre aptitude au bonheur, par exemple. Gilles Babinet, qu'est-ce que toutes ces informations personnelles que Facebook utilise à des fins commerciales, qu'est-ce qu'elle pourrait en faire de bien? Est-ce que vous avez des exemples d'algorithmes, par exemple, qui ont agi en faveur du bien public, de la justice, d'un rééquilibrage des inégalités?
Alors, je vais vous parler de Facebook, puisque j'ai une expérience qui est un peu ancienne. Maintenant, elle doit avoir 5 ans. Mais j'ai un copain qui travaillait au Bellevue Hospital, donc dans un contexte de santé publique aux États-Unis, à New York, et qui avait un partenariat avec Facebook, qui avait opt-in, c'est-à-dire qu'il y avait des autorisations spéciales avec 100 000 personnes pour récupérer leurs données. Et il me disait des choses extraordinaires. Il faut savoir que quand vous êtes logué sur un smartphone sur Facebook, on sait seconde par seconde où vous êtes. Et il cherchait, entre autres, à savoir si les gens déjeunaient en famille. Et il me disait, en épidémiologie, il y a une corrélation absolue entre la criminalité, l'obésité et le fait de déjeuner en famille ou pas. Donc voilà, vous pouvez faire des choses de ce type-là, qui sont des marqueurs extrêmement importants. Alors vous pouvez évidemment martyriser les gens avec ça, mais vous pouvez aussi dessiner des politiques publiques préventives très très efficaces en fonction de ce type de données.
Et à l'inverse, si on mange trop souvent dans les snacks et des hamburgers, c'est les assureurs qui débarquent, c'est ça ?
Alors oui, il y a toujours ce fantasme de l'assureur. Je rappelle qu'en Europe, dans la plupart des pays, et en particulier en France, c'est totalement interdit de faire ça. Donc vous ne pouvez pas discriminer les polices d'assurance en fonction de caractéristiques personnelles. Je crois que c'est important de le rappeler. Mais vous pourriez plus facilement mettre en place des systèmes préventifs. On voit sur Facebook apparaître des publicités qui sont personnalisées. On pourrait tout aussi bien envisager d'avoir des alertes, notamment lorsque on a dépassé, par exemple, 45 minutes de temps, comme certains le recommandent, time well spent aux États-Unis, pour éviter d'avoir des phénomènes d'addiction, des comportements qui sont préjudiciables dans bien des domaines.
Une appli pour limiter sa consommation d'appli, c'est ça ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Time Well Spent, c'est une association qui était créée par un garçon que j'ai rencontré quasiment par hasard dans une conférence aux États-Unis. Tristan Yaris est devenu un garçon extrêmement connu en observant qu'il y avait un certain nombre de comportements qui étaient plutôt morbides en médecine, qui était induit par Facebook. Il a dit ça, c'est un ancien programmeur chez Google, et puis il est parti, il a monté son association, et il a eu pas mal de chance, parce que c'est à peu près à ce moment-là que le département de la santé américain, le ministère de la santé américain, a sorti une étude épidémiologique qui a montré qu'entre 2006 et 2016, c'est extrêmement court comme délai, 6 ans, il y a eu, sur les moins de 21 ans, 61% d'augmentation de dépression, de comportement dépressif. Donc c'est jamais observé. Dans toute l'histoire de l'épidémiologie, on n'a jamais vu ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qui doit potentiellement aller vers de la régulation publique.
Et on voit que c'est un sujet qui monte parce que les actionnaires d'Apple, par exemple, ont interpellé Apple en disant comment pouvez-vous faire pour que vos smartphones soient moins addictifs pour les jeunes, par exemple. Et donc je pense que ce phénomène d'addiction qui a été construit parce que il y a des labos et des neuroscientifiques qui travaillent à comment nous rendre accro à ces outils. Donc il faut savoir, voilà, c'est ces petites récompenses, ces petites pastilles qui viennent sur votre profil parce que les gens ont aimé, etc. Donc il faut savoir que, et les anciens de Facebook l'ont bien dit et l'ont critiqué, que toute cette addiction, elle est construite. Un de ces critiques de Time Well Spent disait, je trouve que la formule est bonne, sur notre lit de mort, on se dira jamais, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps sur Facebook. Et je trouve que ça remet les choses en perspective. Donc, je pense qu'un mélange de éducation des gens à une hygiène numérique et de régulation de ces plateformes sur l'utilisation qu'ils font de nos données, et peut-être, c'est aussi une piste qui émerge, reprendre le pouvoir sur nos données, pourquoi pas les avoir et savoir à qui on veut les confier. Peut-être que c'est le modèle de l'audience et de la publicité qui est pas bonne sur ces réseaux sociaux, qu'il faut être prêt à payer un petit peu pour avoir des données qui ne sont données à personne. Toutes ces pistes-là sont intéressantes.
Qu'est-ce que vous pensez de cette piste-là, puisqu'on est à la nuit des idées, de cette idée lancée en ce début d'année par le think tank très libéral, je crois, Génération Libre, dont fait partie notamment le philosophe Gaspard Koenig, qui prône un droit de propriété privée des données personnelles et va jusqu'à dire que nous devrions chacun avoir le droit de les vendre, nos données personnelles, si nous le voulons, nous-mêmes, aux annonceurs, Gilles Babinet.
Oui, c'est le type, effectivement, de provocation intelligente, d'ailleurs, qu'a Gaspard Koenig. Je crois que c'est intéressant. Il faut quand même replacer ça dans le cadre de l'année 2018, c'est-à-dire l'année où va rentrer en œuvre le GDPR, le RGPD. C'est une
Donc
loi
le RGPD, voilà.
Qui est une loi européenne. Un règlement européen, et qui est probablement l'un des plus grands textes européens qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire, c'est 9 ans de négociations et c'est un texte fondateur. Et c'est un texte, d'ailleurs, qui a une valeur quasi constitutionnelle. Il est très principiel et il rappelle non pas le fait que nous sommes propriétaires de nos données, ce qui n'est pas le cas, mais le fait que nous avons un droit de regard et un droit de retrait.
Le consentement surtout.
Le consentement, effectivement. Et je crois que c'est quelque chose qui va pousser à modifier profondément le design de l'ensemble des services qui utilisent des données. Enfin, du moins, c'est ce que on voit.
C'est l'intention du texte. Là où j'ai un doute, c'est que, je sais pas, ça arrive à tout le monde. Quand on est au milieu d'une action et que tout à coup il y a un truc qui vous dit cochez là ou vous ne pouvez pas continuer, on coche, personne ne lit les conditions d'utilisation.
Mais donc le consentement. Les conditions changent fondamentalement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus imposer sur la data les conditions générales telles qu'elles étaient imposées aujourd'hui, puisque vous avez un cadre légal qui est au-dessus du rapport contractuel que vous avez entre les usagers. Et ça, ça vaut pour 500 millions de personnes.
Vous disiez, Gilles Babinet, qu'on n'est pas propriétaire de nos données, mais est-ce qu'on a une idée de la valeur monétaire de nos postes? Est-ce que c'est chiffré? Est-ce qu'on sait combien on rapporte
sur Facebook,
à Facebook à chaque fois qu'on
poste? On a une idée très précise. D'ailleurs, j'ai fait le calcul. Ça m'a amusé parce que Facebook a annoncé 10 millions d'euros supplémentaires dans l'intelligence artificielle et tout le monde a applaudi en disant formidable, etc. Il faut savoir que Facebook, pour chaque utilisateur en Europe, gagne à peu près 20 euros par utilisateur et par an. Et ils économisent en impôts, en France, 80 millions, s'ils payaient au taux plein l'impôt sur les sociétés, 80 millions d'euros par an, parce qu'ils optimisent en passant par les landes. Tout ça est légal. Mais un cadeau de 2 millions par an sur 5 ans sur l'intelligence artificielle pour aider les universités françaises face à 80 millions d'euros qui ne payent pas, même si on divise par moitié, parce que beaucoup de multinationales ne payent pas au plein taux 33%. Il faut mettre en perspective. Je trouve que ces plateformes, elles sont géniales, je veux dire. Elles sont très faciles à utiliser, tout est gratuit, ils ont une très bonne communication, ce sont des gens super intelligents, mais il faut tout remettre en perspective. Voilà. Et il faut savoir que nos données valent 20 euros en Europe, et 65 aux États-Unis, parce que ils nous vendent, ils nous ciblent, ils nous profilent à tous les annonceurs de la place, et on le voit à travers les pubs qui arrivent sur notre profil. Et c'est vrai que le fil Facebook est devenu de plus en plus commercial.
Alors, ce serait quoi une régulation de Facebook, puisque vous avez tous les deux prononcé ces mots-là, cette expression? On est sur une radio de service public. Est-ce qu'on peut imaginer un Internet de service public qui serait financé par Facebook et tous les autres GAFA? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modèle? Alors,
l'expérience qu'il faut que certains, ceux qui le souhaitent, fassent et qui est très amusante, donc que j'ai faite à l'instigation de Tristan Yaris, c'est de télécharger une petite application qui permet de traquer le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Alors moi, je l'ai téléchargé à l'époque. Quelque chose qui s'appelait antisocial, je crois. Il y en a plein. C'est très facile à télécharger. Et Tristan m'avait dit, mais tu vas voir combien de temps tu penses que tu passes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi, je lui ai dit, allez, 20 minutes, 25 minutes par jour. Et j'étais intimement convaincu que je passais pas beaucoup plus que ça. En réalité, sur les 15 jours où j'ai mesuré, je passais en moyenne entre une heure et une heure et demie sur
les réseaux sociaux. C'est parce que vous y lisez des articles aussi en direct sur Twitter.
Alors, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des choses, à chercher de l'information, mais j'étais loin de figurer ça. Aux États-Unis, et ça, ce sont des études qui sont à peu près toutes convergentes, les adolescents passent 4 heures et demie, plus le temps de la télévision, sur les réseaux sociaux par jour. Donc, vous voyez le niveau auquel on en est. Et l'idée de Tristan, c'est de... Vous savez, les États-Unis ont beaucoup plus un rapport contractuel à la régulation, et nous, plus un rapport aux législateurs. Ils poussent à ce que les réseaux sociaux installent d'eux-mêmes une API, c'est-à-dire un petit connecteur qui leur permette de fonctionner entre eux, qui fait que la somme totale de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, dès que vous arrivez à 45 minutes, ça fait une alerte. Et toutes les minutes subséquentes, d'autres alertes.
Alors, alerte, ça fait 3 minutes que vous avez la parole, Gilles Babinet. On arrive à la fin de cette émission.
Non, mais je pense que on peut les réguler de manière plus autoritaire, mais au niveau européen. C'est-à-dire que Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, a commencé à le faire sur la concurrence avec Google. Il y a en France quelqu'un que je trouve intéressant, qui est le régulateur des télécoms, qui dit on doit aussi réguler les GAFA. C'est-à-dire, fait Sébastien Soriano, pour ne pas le nommer, de l'ARCEP, il a fait une audition au Sénat en disant, au fond, c'est un bien commun, les réseaux numériques, et on doit les réguler comme autrefois on a régulé les télécoms et on est arrivé à une vraie situation où ils ne font pas n'importe quoi, ni avec nos données, ni avec notre temps, etc.
Dominique Nora, pour conclure, vous n'avez pas profité de ce sevrage pour vous désinscrire, dire adieu à Facebook et
mais
dire...
C'est mon métier d'être sur les réseaux sociaux, je ne peux absolument pas en sortir, mais j'en ai un usage très très raisonné. Et il faut savoir que Facebook, c'est aussi WhatsApp et c'est aussi Instagram. Donc c'est quelque chose de très très puissant dans les réseaux sociaux.
Gilles Babinet ? Non, plus ?
Non, moi je le fais pendant les vacances. Je me suis amusé à observer que j'avais passé 15 jours en dehors des réseaux sociaux. Là, en ce moment, je fais un sugar diet, c'est très difficile.
Un sugar diet, bah oui, le sucre, c'est comme les réseaux sociaux. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, Dominique Nora et Gilles
Merci.
Babinet, d'avoir été avec nous. Gilles Babinet, transformation digitale, l'avènement des plateformes, est toujours aux éditions du Passeur disponible. C'était en 2016 qu'il a paru. Merci à vous.
Du grain à moudre spécial Nuit des idées, de 18h20 à 20h, Julie Gacon, Hervé Gardette.
On se déconnecte de Facebook, on se reconnecte à l'essentiel. Va-t-on faire voter les arbres, Hervé Gardette ?
Enfin, on se déconnecte de Facebook, pas tout à fait, Julie Gacon, vous m'aviez caché quelque chose. Nous sommes retransmis sur Facebook Live. J'avais oublié de le dire à 18h20, peut-être valait-il mieux attendre justement ce deuxième débat qui ça nous aurait peut-être un petit peu perturbé. Donc si vous voulez voilà, regarder, en plus d'écouter cette émission spéciale, c'est sur Facebook Live, avec modération bien sûr. Donc faut-il faire voter les arbres ? C'est la question qui peut paraître un petit peu absurde et qui d'ailleurs l'est peut-être un petit peu dans la mesure où un tel projet n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est une question qui permet de s'interroger sur les types de droits accordés à la nature. Si celle-ci est menacée, comment est-ce qu'on fait pour la protéger ? Est-ce qu'il faut la doter d'une personnalité juridique ? C'est donc de cette question dont nous allons discuter à présent en compagnie de deux invités. Lucille Schmitt, bonsoir. Vous êtes la coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Vous venez de coordonner le dernier numéro de la revue Esprit intitulé « Les mondes de l'écologie ». Comme on est aussi un petit peu filmé, j'en profite pour montrer la couverture de la revue et pour discuter avec vous. Laurent Néret, bonsoir.
Bonsoir.
Juriste spécialiste du droit de l'environnement, vous avez dirigé l'ouvrage « Des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au secours de l'environnement » aux éditions Brûlant, c'était en 2015. Alors j'ai dit que cette question « Va-t-on faire voter les arbres ?» pouvait paraître un petit peu absurde, mais restons, si vous le voulez bien, quelques instants dans l'absurde. Si les arbres avaient le droit de vote et la capacité de voter, bien entendu, Lucille Schmitt, je ne vais pas vous demander pour qui ils auraient voté, par exemple, à la dernière présidentielle, mais en tout cas, quelles pourraient être les attentes, leurs attentes en tant que citoyens ?
Moi, je me suis dit qu'effectivement, il fallait se placer dans une fiction où on réfléchirait à ce que souhaitent... Après, les arbres, il n'y a pas seulement les arbres, j'allais dire, c'est les écosystèmes, c'est-à-dire c'est aussi les plantes, c'est aussi les animaux. Et je me suis dit que ce qui s'était passé autour de Notre-Dame-des-Landes offrait sans doute un exemple assez saisissant, en lisant notamment ce qu'avaient dit les paysans qui sont à Notre-Dame-des-Landes depuis 3 générations, 4 générations. Ils ont dit, au fond, ce n'est pas notre victoire, mais c'est le bon sens qui a gagné au bout de 50 ans. Et je me suis dit, si les arbres, si les plantes, si les zones humides avaient eu une voix au chapitre qui peut-être aurait pu être faite par une délégation, par les associations, par des ONG, etc., est-ce que le bon sens ne l'aurait pas emporté plus tôt ? C'est un exemple.
Quand on est cartésien, comme le sont tous les juristes, Laurent Néret, est-ce que ce type de question-là, on peut y répondre ?
Alors, le juriste... a évidemment toujours une image alors cartésienne. Et Descartes disait que la nature c'était un bien et que l'homme était maître possesseur de la nature, et effectivement le droit en a tiré des conséquences. Mais c'est intéressant votre question sur l'image du droit, comme si le droit était une pure technique, comme si c'était un monstre froid détaché des réalités et puis même de la société. En fait, c'est autre chose. Le droit, c'est un mesureur social. C'est ce qui prend la température, et c'est aussi de plus en plus, il suffit de voir le succès de l'accord sur le climat et l'émotion qu'a suscité l'adoption en 2015 lors de la COP21 de cet accord, de voir à quel point, à notre époque, on se retourne vers le droit comme étant peut-être la solution magique aux maux, MAUX, de la société, en particulier à l'Anthropocène, peut-être à cette modification de la géologie de la Terre du fait de l'impact de l'homme. Donc,
alors justement, alors on est le fait de se poser cette question ce soir, va-t-on faire voter les arbres ? Qu'est-ce que ça mesure de ce que seraient les attentes ou les préoccupations de la société ? Parce que si on a eu cette idée, c'est que cette idée est sans doute dans l'air.
Alors, derrière cette question, qui j'ai fait un test un peu autour de moi, très vite a prêté à sourire, il y a une question plus générale et qui d'un autre sérieux, qui est le statut juridique de la nature. Et pourquoi on se pose cette question aujourd'hui ? En fait, elle n'est pas si nouvelle. On se l'est posée dans les années 70, on se la repose aujourd'hui au moment de la prise de conscience des conséquences des activités humaines sur l'environnement. Et en fait, la question est un peu de savoir si aujourd'hui la nature est menacée, si elle va aussi mal. Est-ce que ce n'est pas parce que le droit n'a pas su la protéger, et notamment du fait de cette ultra-puissance de l'image cartésienne, de cette distinction entre les personnes ou les choses, où l'environnement étant une chose, il est au seul service de l'homme.
Et pourtant, le droit s'y intéresse justement à cette question, c'est-à-dire, ces questions, vous dites, elles se posent depuis déjà les années 70, mais le droit a essayé d'y répondre. J'ai entre les mains un autre ouvrage qui est signé Christopher Stone, intitulé « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?», qui vient d'être édité, traduit au Passager clandestin. C'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde, qui est préfacé par la philosophe Catherine Larère et qui reprend un article d'un juriste américain au début des années 70 qui intervenait dans une affaire où il y avait une forêt de séquoias en Californie qui était menacée par un projet d'infrastructure de chez Disney et qui a essayé justement d'introduire cette notion de permettre aux arbres de plaider pour se défendre et pour éviter justement d'être détruits. Est-ce que c'est en tout cas une question, Lucille Schmitt, qui vous paraît être prise de plus en plus au sérieux que celle de la nature juridique de la nature ?
Moi, je pense que ce qui est intéressant dans le livre que vous venez de citer, c'est que là, c'est la question de la plaidoirie, c'est-à-dire est-ce que les arbres peuvent être représentés en justice ? La question que vous nous posez là, c'est une question davantage sur le fonctionnement démocratique. C'est pas est-ce en justice, c'est au fond le fonctionnement politique, démocratique. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que la question écologique, la représentation de la nature, pose des problèmes particuliers, on le sait, au fonctionnement démocratique. Je reprendrai l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un référendum, il y a eu un vote, et ceux qui étaient opposés à l'idée qu'on revienne sur ce vote disaient « le peuple a tranché, le peuple s'est prononcé ». Et on voit bien que dans ce référendum, la question de la représentation de la nature et de la prise en considération des enjeux environnementaux avait été singulièrement absente de la consultation. Le truc, c'était pour ou contre un aéroport. C'était pas pour ou contre la nature. Parce que si on avait dit pour ou contre la nature, peut-être que les résultats du référendum auraient été différents. Alors, donc, il y a une difficulté à inscrire l'écologie et la nature dans la consultation démocratique, dans le vote.
Mais est-ce que vous considérez, du coup, Lucille Schmitt, que si la nature, sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, avait été dotée d'une identité juridique, d'une personnalité juridique, ça aurait permis, justement, de prendre des décisions, et des décisions politiques beaucoup plus rapides ?
Je pense que ce n'est pas la question de la nature juridique, c'est la question de la visibilité ou l'invisibilité de la nature. Je rappellerai une chose, c'est que dans le drame de Sivens, Rémi Fraisse, qui a été tué, qui est mort, était botaniste. Et brusquement, on s'est aperçu qu'il y avait des militants qui, au fond, étaient des militants de la cause de la nature. On s'est aperçu que la botanique existait. Donc la question, c'est plus par quels moyens allons-nous faire apparaître, représenter la nature ? Est-ce par le vote ? Je n'en sais rien. Mais juste pour terminer, je voulais dire aussi que dans cet élargissement de l'idée du vote, il y a aussi le fait que le vote aujourd'hui ne fonctionne pas bien et que quelque part, lorsqu'on vote ou lorsqu'on ne vote pas, on est aujourd'hui insatisfait par rapport au contenu de la consultation démocratique. Est-ce qu'en réintroduisant, en réinjectant de la nature, on ne rendrait pas, au fond, aux citoyens l'envie de voter ? C'est aussi une chose qu'il faut se poser.
Laurent Néré.
D'un point de vue du droit, il y a deux voies possibles pour prendre en compte l'intérêt propre de la nature. La voie qui a été celle encouragée par les pays du Nord, c'est la voie qu'on peut appeler de réification, c'est-à-dire de faire entrer la nature dans les marchés. C'est le principe pollueur-payeur, qui est un principe libéral, et en cela, lui donner une valeur, et notamment une valeur quand il y est porté atteinte, avec l'obligation de le réparer. On a créé les marchés de quotas de gaz à effet de serre, on crée des marchés de biodiversité aussi, c'est cette idée que la propriété serait gardienne de la nature. Simplement, le propriétaire peut aussi user et abuser de son bien. Et puis l'autre voie, celle dont on parle aujourd'hui, et pourquoi on en parle ? Parce que en quelques mois, dans différents pays du monde, en Nouvelle-Zélande, en Inde, mais aussi ailleurs, ont été reconnues la qualité de personne à des fleuves à l'Himalaya. Et en réalité, cette promotion juridique a pour objectif de sauver ce qui est en danger. Deux questions se poseront, je crois, dans le débat qui va venir. C'est, est-ce que c'est possible de dire que la nature est une personne, comme vous et moi, ou alors un peu différente, mais, et puis surtout, est-ce que c'est opportun ?
Est-ce que c'est possible ? Alors peut-être pour répondre sur cette question, même si vous nous avez expliqué que le droit, ça n'était pas que de la technique, mais c'est aussi de la technique. Est-ce que c'est possible intellectuellement, du point de vue du droit, d'en faire des personnes ? Manifestement oui, puisque dans d'autres systèmes, alors qu'ils sont sans doute d'autres systèmes juridiques, ça existe. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs ? Comment vous répondriez à cette double question ?
D'abord oui, c'est possible parce qu'effectivement le droit crée des sortes de fictions. Et notamment, je rappelle que les entreprises ont une personnalité, les États ont une personnalité, ce qui leur donne un certain nombre de droits et de responsabilités aussi. C'est là d'ailleurs qu'il y a une difficulté, c'est que si on donne le statut de personne à la nature, elle peut être représentée en justice, elle aura des droits, mais qu'en est-il de ses devoirs ? Du loup qui agresse le troupeau, de l'arbre qui tombe sur tel promeneur ? Voilà une question qui se pose. Donc oui, c'est absolument possible techniquement, mais ça suppose quand même de se demander quelles en sont les conséquences.
Est-ce que c'est souhaitable, Lucille Schmitt ?
Moi, je crois que sur ce sujet, on voit bien que la fiction juridique prend peut-être la place aussi d'un vide politique. C'est-à-dire que je pense, Laurent Néret a eu raison de rappeler que le droit est à l'image de la société, mais il est là aussi parfois invoqué pour combler le vide de responsabilité politique lorsqu'il s'agit de protéger la nature ou de la prendre en considération. Et je suis frappée d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est davantage la société souvent qui se mobilisent pour les arbres, pour être franche, que les États. Et qu'on voit bien qu'au niveau des décisions nationales, pourquoi est-ce que les choses ont été aussi difficiles par rapport à Notre-Dame-des-Landes ? Parce qu'il y avait des intérêts économiques engagés, parce qu'il y avait des élus locaux qui pensaient qu'il y aurait création d'emplois, parce qu'au fond, les modes de raisonnement n'étaient pas des modes de raisonnement qui donnaient à la nature la place. Je ne sais pas si elle doit être centrale, mais en tout cas la place éminente qui aurait dû être la sienne. Donc je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire du droit l'alpha et l'oméga de la responsabilité politique. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que justement nos responsables politiques et nous-mêmes, parce que nous sommes en démocratie, nous sachions nous mobiliser et ne pas donner au débat une tournure trop exclusivement théorique.
Mais vous évoquez le fait que donner peut-être trop de place au droit serait une forme de déresponsabilisation politique. Est-ce que vous y voyez aussi le fait de, si on dote la nature d'une personnalité juridique, le fait qu'on bouleverse aussi peut-être un peu la hiérarchie, c'est-à-dire que ça irait contre une idée humaniste que l'homme, certes, est responsable, mais il est quand même responsable. Il est responsable des animaux, il est responsable de la nature, justement. Et donc, on nivellerait, on donnerait la même, comment dire, les mêmes droits à un moustique et à un être humain, pour reprendre les arguments qu'avancent parfois certains.
Non, loin de moi cette idée. D'ailleurs, je pense qu'il faut se dire les choses franchement. La nature a une résilience que l'humanité n'a pas et que nous serons morts depuis longtemps, que nombre d'arbres existeront encore et la nature aussi. Mais en revanche, je crains d'être trop anthropocentrique, c'est-à-dire que je pense que la question de donner une personnalité juridique à la nature qui peut être excellente pour soulever les bonnes questions peut être aussi une manière, quelque part, de ne pas donner à la nature la place qui lui revient et de ne pas avoir la créativité nécessaire en termes de concepts, en termes de raisonnement, etc. Et pour dire une chose très, 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 très claire, je crois qu'à chaque situation de relation entre la nature et l'humanité correspondent sans doute des solutions différentes. Et je crois que la question de la diversité des solutions, qui revient donc à la société, au moins autant qu'aux responsables politiques, si ce n'est plus, est quelque chose d'important et que le droit est normatif. Donc je souhaite que la diversité puisse, quelque part, imposer sa prééminence par rapport à la norme juridique.
Laurent Néret.
Moi, je suis méfiant à l'égard, comme je l'évoquais au début de l'intervention, des solutions magiques. Je prends l'exemple cité très souvent de la Constitution de l'Équateur de 2008, qui est le texte suprême d'un pays qui reconnaît la qualité de personne, à la Pachamama, et plus encore, qui prévoit qu'elle a droit à une intégrité et à réparation, avec attribution de la réparation et des dommages et intérêts à sa restauration.
La Pachamama, c'est la terre-mère.
Cette idée de terre-mère, parce qu'il y a un rapport matriciel puissant là-bas, entre la nature et l'homme.
Mais c'est aussi parce que la culture est différente de la nôtre.
Il y a une différence culturelle, tout à fait, mais c'est pour montrer que ce statut juridique-là n'a pas empêché qu'en Équateur, le drame Chevron-Texaco et la pollution et les nombreuses victimes sur place liées à l'exploitation de cet oléoduc n'a pas été amélioré par ce statut juridique. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas opportun, simplement, gare, je dirais, au changement absolu de paradigme, comme si passer du statut de bien collectif ou de patrimoine commun au statut de personne, ça allait nécessairement révolutionner la protection de la nature. Et je suis tout à fait dans la mouvance qui vient d'être évoquée, de ce qu'il y a une diversité de réponses en fonction des diversités culturelles.
Est-ce que, par exemple, la notion d'écocide, alors que je vais vous laisser peut-être définir brièvement, mais pourrait permettre de ne pas être dans ce changement absolu de paradigme, mais d'avancer peut-être justement vers une prise en compte davantage plus importante justement de la nature, du point de vue du droit, Laurent Néret. Est-ce que vous y êtes favorable à cette question de l'écocide ?
Alors, je suis favorable à la reconnaissance de ce crime. Quelques mots de présentation rapide. De la même manière qu'à une époque, on a consacré, notamment à la suite du jugement Nuremberg, le crime de génocide comme portant atteinte à plus que la vie, la dignité humaine, on devrait créer aujourd'hui le crime d'écocide, c'est-à-dire qui détruit eco oikos, la maison, parce que c'est la sûreté de la planète qui est concernée. Et en fait, ce crime, parce que le droit pénal est toujours le révélateur des valeurs d'une société, serait la consécration de la place de la protection de l'environnement au sommet de la hiérarchie.
Lucille Schmitt, vous en pensez quoi, vous, de l'écocide ?
Moi, je trouve très bien que les juristes poursuivent un combat pour la reconnaissance de l'écocide, mais je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que nos relations avec la nature sont loin de se limiter à la question de la criminalisation par rapport à ce que nous faisons subir à la nature. C'est-à-dire que je pense que c'est extrêmement compliqué et que quand on parle de la nature en général, d'ailleurs, quelque part, on simplifie quelque chose alors qu'on sait qu'il y a interaction. La question du loup qui a été évoquée par Laurent Néret est extrêmement intéressante, par exemple. En ce qui concerne le loup, il y a une espèce protégée. Il y a des éleveurs avec des brebis, donc il y a d'autres animaux. Il y a des chiens. Il y a des hommes et différents types d'animaux. Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Et surtout, comment est-ce qu'on organise la capacité de coexistence pacifique, je ne sais pas, mais en tout cas de coexistence viable entre ces différentes espèces. Donc on voit bien que la question de l'écocide est intéressante sur le plan global, sur le plan théorique, sur le plan de la structuration des concepts, mais on voit bien que les situations concrètes sont aussi presque plus importantes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devons imaginer au jour le jour la question de notre coexistence avec les milieux naturels et prendre en considération la conflictualité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'écocide, il y a une sorte de simplification qui, moi, me dérange un petit peu, comme si d'un côté, il y avait la nature et les peuples indigènes qui sont les bons acteurs et de l'autre côté des multinationales qui forcément sont criminalisées. Les choses sont souvent plus compliquées et la question de la responsabilité des uns et des autres doit être prise en considération.
Par exemple, Laurent Néret, il y a une marée noire actuellement loin de chez nous. Est-ce que ce crime d'écocide permettrait justement peut-être d'être efficient par rapport à ce genre de... Alors je ne sais pas si vous parleriez de crime contre la nature, justement. Alors,
je ne qualifierais pas cet événement de crime d'écocide de la même manière que...
Sauf s'il était délibéré, non ?
Ça ne suffirait pas. Tous les homicides, c'est-à-dire tous les meurtres ou les assassinats, ne sont pas des génocides. Il faut que ce soit au-delà encore, qu'on porte atteinte de manière intentionnelle, de manière généralisée, systématique à la nature, par des trafics, par exemple, mafieux, d'enfouissement de déchets de manière régulière. Voilà ce que serait un crime d'écocide. Mais et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que plutôt que d'opposer, et plutôt que d'être dans une défiance d'un côté de la protection de la nature et de l'autre la protection des intérêts économiques des multinationales, qui me semble vouée à des débats très violents et du coup à une volonté presque qu'il y ait un gagnant et un perdant. Le droit, c'est autre chose. Je rappelle les deux symboles qu'on évoque en première année de droit sur les bancs de l'université, de la justice, que sont la balance et le glaive. Le droit est là pour tenir un équilibre subtil entre des intérêts en conflit, l'intérêt de la nature, l'intérêt de l'homme, et ensuite le droit est là aussi pour, avec le glaive, pour prendre, pour montrer des directions et pour prendre des décisions, et c'est du cas par cas. Et je crois beaucoup à cette idée d'éviter la solution univoque de ce que on pourrait dire la nature est un sujet en tant que telle, elle aura la voix au chapitre qui permettra de la défendre de manière absolue, parce que sinon les activités humaines seront stoppées, et je crois que c'est pas possible.
Il faut savoir ne pas aller trop loin, peut-être justement dans la judiciarisation de cet objet qu'est la nature, Lucille Schmitt.
Moi je pense que le sujet c'est surtout d'apprendre à connaître la nature et de réapprendre à la connaître, et quelque part par exemple en revenant sur Notre-Dame-des-Landes, je me disais, je regrette qu'il n'y ait pas un grand roman qui ait été écrit sur Notre-Dame-des-Landes aussi il y a 20 ans, 25 ans, parce que il faut se réapproprier cette connaissance de la nature que les générations précédentes pouvaient avoir. Il faut aussi ne pas trop oublier que la nature est complexe, qu'il y a de la violence, qu'il y a de la conflictualité, que nous ne sommes pas les seuls producteurs de cette violence, et donc à partir de là, comment organiser nos interactions avec ces différents éléments de la nature, c'est ça l'écologie, je voulais le rappeler. Et je pense que ce qui est intéressant par rapport à l'écocide, c'est que la première fois que l'expression a été utilisée, c'était au moment de la guerre du Vietnam, au moment où l'agent orange a été utilisé contre les Vietnamiens. Et je pense que là, il y avait quelque chose qui associait la destruction de l'humanité et la destruction de la nature. Et je crois qu'il faut rester sur cette idée-là, qu'au fond, nous sommes associés, que nous avons un destin commun.
Eh bien, vous savez quoi, nous allons rester sur cette idée-là, justement, parce que c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Lucille Schmitt. Merci, Laurent Néré. Je rappelle le dernier numéro de la revue Esprit, hein, Les Mondes de l'écologie, dans lequel on vous retrouve tous les deux, justement. Il est 19h20 sur France Culture. Nous sommes toujours au Centre Pompidou à Paris dans le cadre de la troisième nuit des idées. C'est déjà l'heure du quatrième débat avec vous, Julie Gacon, avec la question suivante. Doit-on désexualiser les rapports humains ?
Celui qui promettra à l'humanité de la délivrer de l'embarrassante suggestion sexuelle sera considéré comme un héros, quelque sottise qu'il choisisse de dire. C'est Freud qui écrivait ça dans une lettre en 1914. Délivrer l'humanité de la suggestion sexuelle, c'était sous sa plume, et avec toutes les nuances nécessaires à son exégèse, et ce n'est pas le sujet de ce soir, abolir l'assujettissement de la femme à l'homme. En 2018, et après des semaines de libération de la parole des femmes, de tribune et contre-tribune, d'un débat aussi passionnant que salutaire, on a quand même l'impression que quelque chose avance dans l'égalité. Doit-on aller jusqu'à neutraliser le sexe, faire en sorte que l'identité sexuelle de chacun n'ait aucune importance dans les relations humaines ? J'accueille pour en parler Céline Pic. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme, association présidée par Caroline Dehas et qui se donne pour mission de déconstruire les préjugés sur le féminisme et d'éradiquer le patriarcat. Vous êtes avec Cécile Gilbert. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, essayiste, romancière, chroniqueuse chaque mercredi dans le journal La Croix. Vous avez signé la tribune pour un droit d'importuner qui, en étant peut-être un point de départ pour cette émission, n'en est pourtant pas pour autant le sujet principal. Alors, peut-on désexualiser les rapports humains ? Est-ce que vous trouvez que l'identité sexuelle prend une place trop importante dans les relations entre individus ? Peut-être vous d'abord pour commencer, Cécile Gilbert.
Oui, je dois dire que quand on m'a soumis cette question, j'ai été un peu étonnée. J'ai trouvé cette question saugrenue et en tout cas un gros symptôme de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va plus ou de ce qui n'a jamais été, en fait. Doit-on, peut-on, c'est plutôt une injonction du type moral. C'est plutôt quelque chose qui est lié à la morale. Les rapports humains, je les entends, puisque j'en suis à la vieille grammaire sexiste, comme les rapports entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes, et femmes et femmes. Et j'imagine que s'il y a 40 ans, on avait répondu oui à cette question, on aurait tout simplement conduit à l'extinction de l'espèce humaine, puisque je pense qu'on parle justement du sexe et pas de la sexualité reproductive. Parce que quand on demande peut-on désexualiser les rapports humains, en fait, les rapports humains sont déjà désexualisés en partie, puisqu'il existe la procréation médicalement assistée. Donc on voit bien que la question, c'est le sexe. et qu'en fait, sous les rapports humains, on parle de hétérosexualité. Je pense que c'est ce que vous sous-entendez dans cette question.
Non. Pour l'instant, on parle vraiment de l'identité sexuelle de chacun. C'est-à-dire, on est toujours, et notamment dans les débats qui ont eu lieu depuis quelques mois, est-ce que voilà, le féminisme aujourd'hui aurait tendance peut-être à essentialiser ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, donc renforcer le clivage contre lequel il entend lutter, en disant, voilà, nous, en tant que femmes, on prend la parole, c'est aux hommes qu'on s'adresse. Là, on parle vraiment pour l'instant d'une question d'identité, de mettre en avant sa condition de femme et donc peut-être renforcer les clivages d'identité. Céline Pic.
Alors, au contraire, en fait, les féministes ont un discours anti-essentialiste, c'est-à-dire que on refuse, en tant que femme, d'être enfermée dans un rôle de suggestion et en particulier un rôle de mise à disposition auprès des hommes et auprès des agresseurs qui ont aujourd'hui la possibilité de violer, d'agresser ou d'harceler globalement en toute impunité, puisque je rappelle les chiffres, c'est qu'environ 1% des violeurs aujourd'hui en France sont réellement jugés en cour d'assises et envoyés en prison. Donc, et on essaye aussi de tracer une ligne qui est extrêmement claire à comprendre et pour les hommes et pour les femmes, c'est la ligne entre la sexualité, qui est une chose, et de l'autre côté, la violence. Nous, en fait, nous nous attaquons à la violence des rapports humains. Les rapports entre les femmes et les hommes sont empreints de violence, de domination masculine, ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Et c'est ça que l'on dénonce. Et peut-être pour prendre une image qu'on utilise souvent dans les milieux féministes, que j'emprunterai au collectif féministe contre le viol, c'est de dire, quand vous prenez un coup de pelle dans la figure, vous n'appelez pas ça du jardinage. Donc les accusations aujourd'hui qu'on nous fait de vouloir tuer les sexualités, etc., ou les accusations de pudibonderie sont vraiment un contresens total sur notre analyse de la situation. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire que nous traçons cette ligne et nous demandons de dire stop aux violences sexuelles. Et pour enfin, effectivement, pouvoir parler peut-être de désir féminin, de désir masculin et effectivement de sexualité libérée. Alors, mais celle-ci, le préalable à une sexualité libérée, c'est vraiment l'arrêt des violences sexuelles qui s'exercent aujourd'hui des hommes sur les femmes.
Alors encore une fois, là, vous parlez de sexualité, je vous parle... D'accord. Je vous demande si le fait que revendiquer en tant que femme d'autres rapports dans la société, ça ne nous positionne pas déjà comme femme, et est-ce qu'on peut arriver dans une égalité ou une parité des rapports hommes-femmes qui fasse que ce n'est plus un identifiant, que notre sexualité, moi... c'est la question aussi du sexe neutre dans l'administration.
Moi, je suis
Cécile Gilbert.
Mais moi, je ne suis pas tellement à l'aise avec cette question de l'identité sexuelle, puisque je pense que précisément, quand on fait de l'amour, on n'est pas deux, on est quatre. Chaque homme peut être à la fois femme et homme. Vous revenez sur cette tribune, en fait, on a dit qu'on n'y revenait pas, mais vous y revenez parce que vous... Bon, maintenant...
Alors,
puisqu'on parle de tout ça, je tiens à dire...
Vous voulez être dans ce sujet-là.
Non, je ne veux pas être dans ce sujet-là, si vous voulez, parce que je pense que la domination masculine qui est dénoncée à juste titre, tout ce qu'on a entendu sur la libération des paroles des femmes par rapport à des abus de pouvoir, par rapport à des violences, par rapport à du sexisme, c'est quelque chose de révolutionnaire et de salutaire. Plus rien ne sera jamais comme avant, j'en suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas opposée, si vous voulez, à ce discours-là. Ce que je veux dire, c'est que quand nous avons signé cette tribune, qui n'était pas sur le droit d'importuner, qui était simplement libellée comme « des femmes libèrent une autre parole », c'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas forcément d'accord entre elles, et qu'on ne peut pas forcément parler au nom de les femmes. Et nous, on s'est heurté face à nous, en boomerang, à des femmes qui disaient « les femmes, nous sommes sœurs, nous sommes femmes ». Je suis désolée, je ne suis pas forcément sœur, je n'ai pas de sororité avec les femmes sous prétexte que je suis dessus des sexes masculins. Certaines sont mes sœurs, certains hommes sont mes frères. Il y avait beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles et de viols qui ont signé cette tribune des 100 femmes, dit la tribune Catherine Deneuve. Cette information n'a pas été relayée parce qu'effectivement, elle gênait un certain simplisme du discours. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la domination, elle existe aussi à l'intérieur des rapports homosexuels. Je ne sais pas si vous avez lu récemment ce livre de cette jeune femme qui a longtemps été hétérosexuelle et qui a un nom célèbre puisqu'elle s'appelle Constance Debray et qu'elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Playboy. Et elle est la nièce de Jean-Louis Debray et la petite fille de Michel Debray. Bon, et qui est devenue lesbienne. Mais il faut voir comment elle écrit ses rapports avec les autres femmes. Donc, si vous voulez, c'est un rapport cru, ce sont des mots drus. Est-ce qu'on parlera de domination ? Non.
Céline Pic, vous avez lu la tribune de Marcela Yacoub dans Libération qui dit « Les femmes aussi peuvent importuner les hommes de leurs assauts. » Alors, tant qu'à faire avec son sens de la provocation à Marcela Yacoub, que truie et porc s'importunent réciproquement. Vous êtes choquée de lire...
Oui, parce qu'en fait, on ne réclame pas le droit d'importuner les hommes. En fait, on réclame simplement une société un peu moins violente, un peu plus apaisée, effectivement, dans les relations entre les femmes et les hommes. Et pour répondre un petit peu à votre question sur faut-il désexualiser, oui, nous réclamons que, par exemple, dans un rapport de travail, on peut parler de l'affaire Weinstein, on peut parler de l'affaire Baupin, on peut parler de tout un tas d'affaires. Il y a effectivement, dans un cadre par exemple professionnel ou dans un cadre familial, l'exercice de violences qui sont masculines, quoi qu'on puisse en dire, elles sont masculines. Aujourd'hui, si les victimes de violences sexuelles peuvent être des hommes ou des femmes, les auteurs des violences sont des hommes. Donc après, on peut bien sûr parler de violences dans un autre cadre, et j'entends ce que vous dites par rapport à des couples homosexuels, mais là, ce dont on parle quand on parle de l'affaire de Weinstein, l'affaire de la libération de la parole des femmes, c'est vraiment un système de violence qui reste masculine, quoi qu'on puisse en dire, qui s'exerce sur les hommes comme sur les femmes. Et pour la désexualisation, comme vous le dites, oui, dans un cadre professionnel, le fait d'être un homme, d'être une femme, d'être hétérosexuel, d'être homosexuel, ne devrait pas rentrer en compte dans votre parcours professionnel. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, les femmes continuent à gagner 27% de moins que les hommes. Ce n'est pas un catéchisme, ce sont juste la réalité des statistiques contre lesquelles nous luttons. Et ce 27% d'écart s'explique à plein d'égards, et en particulier parce qu'en fait, dans un cadre professionnel, il y a du harcèlement sexuel qui vont permettre à des hommes d'exercer un pouvoir sur des femmes et entraver effectivement leur carrière par ce type de pratique. C'est extrêmement simple, et effectivement... c'est un discours au contraire qui va à l'encontre de toute essentialisation des femmes et des hommes, mais prendre femmes et hommes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire leurs compétences, leur parcours et leurs aptitudes.
Cécile Guilbert.
Oui, donc ça prouve bien qu'il y a plusieurs façons d'entendre cette question que vous avez posée ce soir et pour laquelle vous nous demandez de répondre, en fait. Parce qu'évidemment, dans le cadre professionnel, je suis tout à fait d'accord, il vaudrait mieux qu'il y ait un peu plus, effectivement, de neutralité, qu'on ne prenne pas en compte. Mais bon, je pense que c'est quand même aussi... ça va être très difficile, mais bon, pourquoi pas, ça peut être souhaitable. On pourrait effectivement mettre le quart de l'énergie qu'on a mis à s'écharper pendant 15 jours, si vous voulez, sur effectivement la juste revendication de l'égalité salariale, de la parité ou de plus de postes de direction pour les femmes dans les entreprises. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, pour revenir au début de votre première question, à savoir la sexualité, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Parce qu'en fait, on aurait pu poser la question sous la façon suivante. Plutôt que de dire « doit-on ou faut-il désexualiser les rapports humains ?», on aurait pu dire tout simplement « comment rendre le sexe entre les êtres humains plus libre, plus joyeux, moins violent, plus égalitaire ?». Alors, on aurait pu poser la question comme ça, et à ce moment-là, moi je pense qu'on aurait pu en revenir à ce qu'était ce moment très spécifique et totalement français qui a été le début du XVIIIe siècle, où il y a eu une vraie égalité, il y a eu une vraie connivence sous la forme du libertinage qui tenait à l'éducation des femmes et qui tenait aussi, si vous voulez, au fait qu'on a toujours lié le sexe et la pensée, qu'il s'agit de rendre les femmes philosophes. Hein, c'est ça, c'est dans la littérature de l'époque, c'est ça.
Mais vous-même, Cécile Guilbert, dans une chronique dans La Croix, vous citez la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses qui raconte dans une lettre par quels moyens elle a acquis les armes lui permettant de jouer à égalité avec les hommes et Valmont. Un jeu, donc, mais vous posez la question juste après, mais qui, aujourd'hui, a encore envie de jouer ?
Oui, si vous voulez, ce qui est intéressant chez la marquise de Merteuil, et je reviens à notre histoire de tribune, parce qu'il y avait eu aussi une tribune parallèle à la nôtre dans Le Monde ce jour-là, qui était une tribune de Belinda Cannon, pour ne pas la citer. Elle disait aussi, les choses iront mieux entre les hommes et les femmes le jour où les femmes auront le courage ou peut-être l'audace de faire comme les hommes, c'est-à-dire d'exprimer clairement leurs désirs de prendre les mêmes risques que les hommes en termes de blessures d'amour propre, pas quand on se prend un râteau ou une veste, pour parler vulgairement. C'est-à-dire quand les femmes pourront exprimer leurs désirs avec autant de force, de clarté que les hommes, ça ira aussi beaucoup mieux.
Céline Pic, qu'est-ce que ce serait une drague ou du sexe égalitaire ? Ce serait quoi, paritaire ?
Peut-être on pourrait parler de clitoris et de sexualité féminine différemment. Aujourd'hui, on a effectivement une des premières campagnes qui avait extrêmement bien marché à Oser le féminisme en 2011, ça s'appelait Oser le clito. Ça avait fait un petit peu réagir. Et je pense qu'aujourd'hui, les attaques que les féministes ont pu subir en termes de pudibronderie, etc., sont totalement à côté de la plaque, à mon avis, puisqu'au contraire, on réclame plutôt une sexualité réellement libérée, c'est-à-dire une sexualité qui soit pas juste phallocentrée, centrée sur le désir irrépressible masculin. Pour moi, il n'y a pas de désir irrépressible masculin. Il a un désir masculin, il a un désir féminin qui doivent se rencontrer pour un rapport sexuel. Et aujourd'hui, la conception que nous impose ce qu'on appelle, je le répète, le patriarcat, c'est vraiment une croyance dans un sorte de désir irrépressible masculin qui devrait aboutir nécessairement à une violence contre les femmes. C'est contre ça qu'on se bat, pour une sexualité partagée et désirante de la part des deux parties. Donc parlons clitoris, parlons désir féminin, parlons des lesbiennes, parlons de sexualité homosexuelle, hétérosexuelle. Ça, effectivement, on parle de libération des sexualités. Aujourd'hui, de recentrer le débat sur on attaque les hommes, etc., c'est, je pense, un combat d'arrière-garde sur une vision de la sexualité qui est effectivement phallocentrée.
Cécile Guilbert.
Alors, je suis en partie d'accord avec vous sur certaines choses. Alors, une chose qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on parle de sexualité. La sexualité, c'est effectivement, il n'y a pas que la sexualité féminine qui est le continent noir, d'une certaine façon. La sexualité, c'est vraiment le truc qui fait flipper l'humanité, qu'on essaye de réprimer, qu'on essaye de canaliser, qu'on essaye de pénaliser, notamment quand, dans son aspect non procréatif, qui est en fait le sexe, l'érotisme, etc. C'est pour ça que depuis toujours, les clergés s'en emparent. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a l'air de parler de tout ça comme si c'était évident et clair pour tout le monde. Mais en fait, nous vivons une époque, à mon avis, d'obscurantisme sexuel total, dans la mesure où il a fallu des campagnes sur le clitoris. On s'est aperçu en 2016 qu'il y a eu une enquête du Haut Conseil à l'égalité où plus de 70% dans une classe de lycéens, dont on dit par ailleurs qu'ils sont abreuvés de pornographie, qu'ils ne savaient ni les hommes ni les femmes, ces lycéens de 15 ans, ce qu'était un clitoris, à quoi ça servait et où ça se trouvait. Il a fallu attendre 2016, encore une fois, pour que pour la première fois, il y ait dans un manuel d'anatomie une représentation juste du clitoris. Mais si vous voulez, moi je suis pour toujours équilibrer le propos, à savoir qu'effectivement la jouissance féminine est toujours quelque chose qui semble inconnu de certains hommes qui ont une sexualité peut-être phallocentrée comme vous dites, je veux bien en convenir, mais de l'autre côté, c'est un peu la même chose, parce que les femmes s'imaginent que sous prétexte que les hommes, puisqu'on met les pieds dans le plat et qu'il faut parler des choses, sous prétexte que les hommes ont une érection, ils sont excités, ou sous prétexte qu'ils éjaculent, ils jouissent, c'est pas vrai non plus. Il y a des tas de phénomènes qui sont liés à la sexualité humaine, celle des hommes et celle des femmes, qui font l'objet d'une méconnaissance absolument abyssale aujourd'hui encore. Le nombre de femmes qui, paraît-il, simulent dans les rapports de pénétration est, paraît-il, colossal aussi. Donc, si vous voulez, je pense que l'humanité patauge toujours là-dedans.
Céline Pic, c'est peut-être quelque chose sur chose sur laquelle vous vous rejoignez.
Je pense que sur le continent noir du désir féminin, je pense qu'on est complètement d'accord. Et votre évocation du porno m'interpelle. J'avais aussi une autre réflexion qui venait par rapport à la réflexion sur le libertinage, mais peut-être qu'on est un peu passé.
Restez peut-être sur le porno, parce que l'éducation, on entend toujours dire qu'il faut encourager les femmes à parler, qu'il faut encourager les petites filles à savoir dire non, et puis on n'entend jamais dire qu'il faut éduquer les garçons, notamment sur cette question.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'une sexualité qui soit joyeuse et désirante des deux parties, mais en fait, on pourrait aussi s'interroger sur la représentation que nous donne à voir les films pornographiques. Pour rappel, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, je crois que le premier visionnage d'un porno, c'est environ 11-12 ans pour les garçons, un peu plus tard pour les filles. Donc c'est bien avant l'entrée dans la sexualité. Et en fait, il y a un certain nombre de statistiques qui ont été faites. 88% des films porno montrent des images de violence sexuelle. Donc là encore, on confond violence sexuelle et sexualité libérée, ce qui n'a strictement rien à voir. Les images de porno montrent des images relativement violentes. Centré sur, excusez-moi, je vais mettre aussi les pieds dans le plat, des énormes pénis en érection, et concentré sur la pénétration vaginale. On ne parle rarement ni de clitoris, ni de plaisir féminin, et il y a beaucoup cette idée il y a beaucoup d'insultes sexistes, il y a beaucoup de pénétration, de perforation, de... excusez-moi, on est à une heure de grande écoute, mais les actes qui sont présentés dans le porno, ça... Enfin, pour certains, quand on appelle le gonzo porn, on est sur des images que je qualifierais, moi, de torture physique. Et ce n'est pas l'image d'une sexualité libérée telle que les féministes veulent promouvoir.
Et on disait pourtant, en début de cet échange, qu'un nouveau monde peut-être se levait sur les rapports humains, Cécile Guilbert.
Oui, c'est ce qu'on croit, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Encore une fois, revenons au libertinage. Le libertinage, c'est pas le droit de trousser les femmes de chambre. Quand on a parlé de libertinage à propos de DSK, c'était absolument une aberration. C'est pas ça le libertinage. Le libertinage, c'est de rendre les femmes... Donc c'est l'éducation des femmes, évidemment, mais elle est déjà en cours et faite depuis évidemment le XVIIIe siècle, heureusement. Mais si vous voulez, c'est les rentes. Le sexe ne peut pas se dissocier de la pensée d'une certaine façon. C'est valable pour tout le monde, pour tous les êtres humains.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet échange. Merci à vous deux, Cécile Guibert et Céline Pic, d'avoir été avec nous.
Du grain à moudre spécial Nuit des idées, de 18h20 à 20h, Julie Gacon, Hervé Gardette.
Dernier débat de cette nuit des idées en direct sur France Culture depuis le Centre Pompidou. À quoi aujourd'hui dire non ? Nous avons proposé à tous les invités des discussions précédentes de rester avec nous pour ce dernier échange. Vous êtes donc 5.
Oui, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas, Julie Gacon.
Mais oui, il y en a qui ne pouvaient pas.
Donc ils sont 5, mais c'est très bien.
Ce n'est pas qu'ils ont dit non au débat. Cécile Guilbert, Céline Pic, Bakary Sacco, Lucille Schmitt et Laurent Nérève, vous êtes donc restés avec nous. Pour cette question, à quoi aujourd'hui dire non ?
Oui, parce que ça nous semblait un petit peu trop facile, finalement, de faire des débats de 20 minutes. Vous savez qu'avec Julie Gacon, dans Dimanche et après, dans Du Grain à Moudre, on a 40-45 minutes pour réfléchir à un sujet. Là, 20 minutes, c'était encore trop facile. Donc, un seul sujet pour 5 participants. On va essayer de le faire. À quoi aujourd'hui dire non ? Il y a déjà des petites choses, d'ailleurs, qu'on a entendues dans les différents débats, notamment dire non à Facebook. Peut-être qu'aussi, il faut dire non à France Culture pour les moins de 18 ans, dans certaines discussions. Mais c'est Emmanuel Macron, en fait, qui nous a suggéré cette dernière question, comme il l'avait fait d'ailleurs pour la première. Je rappelle, avons-nous quelque chose à faire pour la nation ? Et bien, c'est aussi le cas pour cette question, à quoi aujourd'hui dire non ? Parce que vous savez, le macronisme, c'est le fameux en même temps, c'est-à-dire l'idée qu'on peut concilier les contraires. C'est une culture de consensus qui, par définition, est censée entraîner l'adhésion du plus grand nombre. Mais ce consensus, nous dit par exemple la philosophe Chantal Mouffe, c'est une illusion. Le conflit est nécessaire à la démocratie. Mais alors, à quoi est-ce qu'on peut s'opposer en démocratie ? À quoi est-ce qu'on peut dire non ? C'est donc à cette question qu'on vous a demandé de réfléchir en amont à tous les 5. Laurent Néré, c'est à vous que je vais poser d'ailleurs cette première question. Comment est-ce que vous avez eu envie, vous, d'y répondre ?
Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le fait de dire non aux pressions en tout genre qui porteraient atteinte à de grandes valeurs qui sont liées, la liberté d'expression et l'indépendance. Et là, je parle en tant qu'académique, en tant que chercheur. Ce sont des pressions qui peuvent être en... variable, et aujourd'hui une tribune est publiée dans de nombreux journaux de journalistes mais également de représentants d'ONG qui subissent des actions en justice de la part d'un certain nombre d'industriels qui leur reprochent de les diffamer parce qu'ils ont des propos sur leur comportement d'un point de vue de leur gestion de leur politique en tant que multinationales.
Bah, une pression, on en a eu une, nous aussi, hein, d'ailleurs, je le rappelle, hein, pour cette émission à laquelle devait participer Eugénie Bastier. Puis voilà, il y a eu un appel à manifester contre sa présence sur Facebook qui fait qu'elle a préféré, et comme je le disais au début de l'émission, on la comprend absolument, ne pas venir et ne pas prendre le risque, voilà, d'être totalement déstabilisé. Mais je vous laisse poursuivre.
Je ne crois pas qu'on y gagne à limiter le débat, à le museler. Toutes les opinions, dans la mesure où elles respectent les lois de la République, et si elles ne les respectaient pas, eh bien, il y a des enceintes pour cela, pour les sanctionner. Mais je dirais que la Cour européenne des droits de l'homme, je parle encore en tant que juriste, place le niveau de protection de la liberté d'expression au plus haut. Mais ça, ces pressions-là sont les pressions, je dirais, les plus visibles. Mais il y a tout ce qui est invisible aussi. En tant que chercheur, je pense à des pressions économiques, à des financements pour des projets qui seraient plus ou moins porteurs pour un État, ou au-delà de ça, des financements privés qui ne seraient pas alloués en fonction de ce qu'écriraient les uns ou les autres. Et je pense à une autre affaire où des experts entendus par le Sénat ou l'Assemblée, dont on s'est rendu compte que leur position sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé de la population globale n'était pas seulement lié au diesel, et on se rend compte qu'en réalité ils étaient, semble-t-il, une procédure est en cours évidemment, je ne présage pas de l'avenir, mais qu'il y avait des financements, qu'il y avait un musellement, mais par l'argent. Voilà ce à quoi il faut sûrement peut-être dire non, et je pense à la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Mais qu'as-tu donc là, lui dit le loup qui est affamé au chien. Qu'as-tu donc là? Ah, c'est rien, c'est le collier. Mais quoi, tu ne peux pas courir dans les bois? On te donne toute cette nourriture, tu es gras. Mais moi, je ne veux pas que ma liberté en prenne un coup.
Est-ce qu'il faut du courage pour retirer le collier? Est-ce qu'il faut du courage pour dire non, davantage d'ailleurs que pour dire oui? Et est-ce qu'on est dans un pays, ici en France, où cette question du courage se pose? Qui veut répondre à cette question?
Ah, moi, je veux bien.
Madame Schmitt.
Oui, moi, je pense que ce n'est pas un hasard si les lanceurs et les lanceuses d'alerte se multiplient. Vous savez, aux États-Unis, on parle de whistleblower, et c'est une tradition qui existe depuis très longtemps. Et en quelque sorte, il y a une espèce de multiplication de lanceurs d'alerte sur les sujets les plus... quelque part les plus évidents, mais les plus divers. C'est ça que je trouve très intéressant. Ça existe sur la finance, ça existe évidemment sur les questions de santé et d'écologie, sur les perturbateurs endocriniens. On peut dire quelque part que le mouvement MeToo est une sorte de mouvement de lanceurs et de lanceuses d'alerte. Mettons les hommes parce qu'il y a des hommes féministes, hein, je crois qu'il faut le dire aussi. Ils ont été peu présents dans ce débat, mais je pense qu'il y en a sans doute beaucoup là ce soir. Et donc je pense qu'il y a évidemment la question du courage, parce que ce qu'on voit sur les lanceurs d'alerte, c'est qu'on dit qu'on leur donne un statut, mais ils perdent leur travail, ils affrontent des procès face à des multinationales puissantes, ils voient leurs revenus divisés par 10, et ils voient aussi l'opprobre social, c'est-à-dire que quelque part, le courage, c'est aussi le courage d'être solitaire et qu'on se détourne de vous, peut-être pour se retourner vers vous ensuite. Mais je crois que la question de lancer l'alerte, elle est vraiment un élément de courage individuel et collectif, et qu'il en faudrait plus aujourd'hui peut-être au sein de l'État par rapport à certaines réalités qu'a rappelé Laurent Néret.
Bakary Sakho, je rappelle que vous êtes militant associatif, vous travaillez dans les quartiers du 19e arrondissement de Paris. Est-ce que cette notion de courage, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez être confronté, c'est-à-dire avoir des obstacles contre lesquels vous devez vous battre dans votre travail de tous les jours?
Alors moi, je suis un éternel enfant, et un enfant de surcroît curieux, donc je dis constamment non. À un enfant, quand vous lui proposez quelque chose, il vous dit d'abord non avant de finir par vous dire oui. Et je dis non constamment dans mon activité quotidienne au clientélisme que l'on peut voir aujourd'hui dans l'action sociale. Non au fait que aujourd'hui, de plus en plus, vous n'avez pas de talent, mais vous êtes dans les bons réseaux. Vous avez les bonnes relations, les bons contacts. Alors on vous maintient dans ce jeu politique, on vous maintient dans ce jeu du pouvoir parce que vous êtes dans les bons papiers. Et ça nous empêche aujourd'hui en France d'être dans la performance sociale. Je suis dans l'action sociale, je ne touche pas de crédit. Depuis 20 ans, je n'ai jamais été salarié d'aucune association, mais je suis entrepreneur. Et vous voyez, entre ces deux mondes, en tant qu'entrepreneur, chaque jour, vous devez faire en sorte que votre chiffre d'affaires soit atteint. Pourquoi ? Sinon, en fin d'année, vous déposez le bilan. Mais ce que je constate dans l'action sociale, c'est que vous donniez du résultat ou pas, que vous soyez performant ou pas, si vous êtes dans les bons papiers, si le clientélisme fonctionne, ben vous aurez vos crédits. Vous serez salarié, toujours de votre structure. C'est un peu le système des élus. L'élu, je prends un ministère au hasard, ministre de l'Emploi, chargé de la formation professionnelle des jeunes, eh ben que vous trouviez du boulot ou pas pour les jeunes, votre salaire, lui, ne diminuera pas. Donc la performance aujourd'hui n'est pas demandée parce qu'on est aujourd'hui un petit peu trop dans cet aspect et dans cette idée de clientélisme. Donc moi aujourd'hui, surtout dans les choses que l'on vit sur le 10e arrondissement, vous avez des jeunes aujourd'hui qui, à partir de juste il y a une semaine encore, des jeunes du quartier Riquet ont mis un coup de couteau à des jeunes du quartier du 11e arrondissement. Tout ça pour des histoires de regard. Donc vous avez des gamins de 14-15 ans qui n'ont plus aucune ambition, qui ne se projettent plus. Cependant, dans ces mêmes quartiers, vous avez des éducateurs de rue, des crédits politiques de la ville, des associations à ne pas en finir. Et allez comprendre pourquoi des gamins de 14-15 ans n'ont plus aucun rêve. Alors comment vont-ils avoir un plan ?
Alors à force de dire non tous les jours quand on a envie de s'opposer, Carrie Sacco, comme vous le dites, à des injustices, à des inégalités, à force de dire non, est-ce qu'on finit par perdre la valeur de ce que veut dire non ? Et est-ce qu'on finit par dire non à tout et n'importe quoi, sauf peut-être aux questions essentielles ? Qui veut y répondre ?
Céline Pic s'apprête à répondre.
Je voulais juste déjà dire que le parallèle qui a été fait entre MeToo et les lanceurs d'alerte, moi je le trouve assez pertinent parce qu'en fait le témoignage que vous venez de faire, parce qu'en fait dire non, il faut une certaine forme de courage. Donc je répondrai plutôt à la négative à votre question, c'est que les personnes qui disent non face à une opinion dominante, face à un système qui est dominant, ont souvent beaucoup plus à perdre qu'à gagner en fait. Donc, et on le voit aujourd'hui avec les femmes qui parlent dans la campagne MeToo. On a longuement parlé des hommes qui étaient accusés, des fois sans preuve, etc. Mais en fait, on voit dans l'ensemble des affaires qui ont été menées, exactement comme les lanceurs d'alerte, les femmes qui ont parlé ont souvent payé cher le courage qu'elles ont eu de dire non. Je m'inscris un petit peu en faux contre une vision un peu libertarienne de la société qui voudrait que on ait cette liberté d'expression, on puisse dire oui, on puisse dire non, on puisse s'opposer librement, etc. Non, il y a un certain nombre de systèmes de domination qui font que quand vous êtes minoritaire et quand vous n'êtes pas dans une position de pouvoir, dire non, c'est courageux.
Cécile Guilbert, sans refaire le débat qui vient d'avoir lieu, mais dans la démarche qui a été la vôtre, est-ce que pour vous c'était aussi une façon de dire non à quelque chose et de dire non à ce qui pouvait être peut-être par rapport à la majorité de l'opinion ?
Oui, c'était dire non à certaines dérives, parce que MeToo, d'accord, mais balance ton porc, on sait quand même qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu qu'il y a eu une délation, qu'il y a eu une ostracisation souvent exagérée d'hommes qui ont perdu toute réputation, toute situation professionnelle à la suite d'accusations de femmes qui ont lancé ce mouvement, alors même qu'elles n'étaient pas dans des rapports de subordination hiérarchique à ces hommes. Bon. Mais je ne veux pas attiser encore les braises sur cette affaire, dire non au macartisme sexuel, oui, ça oui.
Mais est-ce que la valeur du non, elle peut aussi se mesurer à ce que l'on est capable de perdre en disant ce non ? C'est-à-dire, est-ce que vous, par exemple, vous aviez mesuré, est-ce que vous avez perdu des choses, pris un risque quelque part, Cécile Guilbert ?
J'ai pris un risque, évidemment, puisque tous les débats sont hystérisés, qu'il n'y a plus de débat, que justement par les réseaux sociaux, on a le droit à des torrents d'insultes. Bon, moi, personnellement, là où je dis non, c'est que je rejoins monsieur, c'est-à-dire que puisque j'écris et qu'après tout, je n'ai que comme seule arme les mots et écrire, je dis non, effectivement, à tout ce qui pourrait restreindre la liberté critique. Je suis obligé de me battre. Parce que j'écris aussi, comme vous l'avez dit, dans un journal qui est un journal chrétien, où je parle de sexe, où j'ai parlé, parce que ça m'avait beaucoup frappé, le fait que cette libération de la parole des femmes n'ait jamais été mise en parallèle avec la libération des paroles des victimes de la pédophilie dans l'Église ou des abus sexuels dans l'Église. Donc je peux vous dire que ça fait quand même aussi des remous, que par exemple aussi des choses qu'on ne met pas en rapport, c'est-à-dire que quand Tariq Ramadan a été effectivement a été dénoncé par certaines femmes comme un prédateur sexuel. Finalement, on a préféré balancer cette affaire Tariq Ramadan du côté de l'affaire Weinstein, mais en fait, elle est tout aussi, si vous voulez, rapprochable des cas de pédophilie dans l'Église, puisqu'il s'agit d'abuser d'une autorité spirituelle, d'une certaine façon. Hein. C'est un rapport aussi de, si vous voulez, d'autorité. Mais si vous voulez, pour moi, l'affaire Tariq Ramadan, c'était aussi proche des abus des confesseurs ou des prêtres sur des enfants à cause de ça. Bon, vous voyez, donc, et je dis non aussi à l'instrumentalisation permanente qui est faite des médias, des réseaux sociaux pour rejoindre un débat qui a eu lieu, parce que, si vous voulez, cette société universelle, planétaire, qui, à travers des myriades et des myriades et des milliards de si vous voulez, d'opinions, de tweets, d'avis qui finissent par se viraliser, devient, je trouve, oppressive, et surtout elle prend beaucoup trop de place. Donc la façon de dire non, c'est pas forcément de dire non haut et fort dans les médias ou par des positions publiques, c'est aussi une façon plus orientale, si vous voulez, de se dégager par une stratégie de la discrétion et de l'évitement, de la disparition de cet espace.
De la discrétion, et par faut aussi de l'action. Vous évoquiez tout à l'heure, dans le débat, va-t-on faire voter les arbres, Lucille Schmitt, la question de Notre-Dame-des-Landes. Alors là, on a un véritable exemple de ce que c'est que de dire non, et de ce que ça peut aussi produire.
Moi, je trouve que ce qui était très intéressant, effectivement, dans la décision de dire non, de ne pas faire le projet d'aéroport, c'est que, en réfléchissant à votre question, je me suis dit, la principale chose à faire lorsqu'on veut transformer le monde, c'est de dire non aux postures, aux éléments de langage. Et puis, bon, moi, j'aime bien Delphine Bateau, qui aujourd'hui est en lutte contre son parti, et qui, dans
le
Parti Socialiste, et qui, dans le numéro d'Esprit, nous a donné un entretien où elle dit qu'au fond, elle était contre les machines à signer. Quand elle était ministre, parce que vous savez, quand on est ministre, on est souvent en représentation, et lorsqu'on part, en fait, il y a une machine à signer, vous avez déposé votre signature, et vous n'êtes pas là, mais vous êtes quand même en train de signer. Et donc, il y a quelque part, je trouve, dans cette question de dire non, aujourd'hui, il y a aussi l'idée de structurer un non qui ne soit pas un non de caprice. Moi, ce que j'aime dans le non à Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'au bout de 50 ans, quelque part, il y a une élaboration qui s'est faite avec... un Premier ministre, Édouard Philippe, dont je ne partage pas toutes les idées, soyons clairs, mais qui a eu un discours que j'ai trouvé extrêmement démocratique en disant, au fond, un vote, s'il est conflictuel et s'il ne permet pas de construire les conditions collectives, au fond, d'une décision apaisée, eh bien, ce n'est pas un bon vote. Et là, c'était quelque chose qui n'était pas une posture, c'était pas dire le peuple a décidé ceci, cela. Il a été loin des éléments de langage, alors que souvent le discours politique nous a habitués aux éléments de langage et à une forme de langue de bois. Donc je dirais non à la langue de bois, et là-dessus, je trouve que Notre-Dame-des-Landes est assez exemplaire.
Bon, non à la langue de bois, on ne peut pas dire que vous avez fait de la langue de bois ce soir, Céline Pic. Hein.
Non, je dirais simplement que moi je dis non simplement à la question de la violence sexuelle et à l'affaire Tariq Ramadan, l'affaire Weinstein ou la troisième affaire, l'affaire des prêtres pédocriminels, et en fait une même et unique affaire hein, qui est la question de la violence sexuelle et de son impunité, que ça soit sur des femmes ou que ça soit sur des enfants. Quant à l'accusation... quand on parle, par exemple, d'hystérisation du débat par les réseaux sociaux dans cette affaire Weinstein, là aussi, je pense qu'il faut garder raison. Aujourd'hui, les femmes qui ont dit non, qui ont dénoncé, pas délation, parce que délation, c'est souvent dans le but de nuire, mais dénoncer des faits qui sont punissables pénalement, ont eu à subir beaucoup d'insultes également aussi et d'attaques sur les réseaux sociaux. Quant aux hommes qui ont été attaqués, je pense par exemple à Frédéric Aziza, il a été réintégré dans son poste, je crois, le mois suivant.
Voilà, qui est un journaliste de la chaîne parlementaire.
Il n'y a pas de macartisme là-dedans. Et par contre, de dire non face à un supérieur hiérarchique, oui, c'est difficile.
Alors, les uns et les autres, quels que soient vos combats, quel que soit ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous fait dire non, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce non ? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en danger d'une certaine manière, et jusqu'où ? Ce soir, vous pouvez dire, j'irai jusqu'au bout en
ne répondant pas peut-être à cette question, non ? Si, quand même, Laurent Néré. Allez.
Dire non, par exemple, à des financements qui pourraient être très entraîner une grande qualité dans la recherche, par exemple, pour ne pas risquer, si ces financements, par exemple, sont privés et proviennent de ceux contre lesquels le sujet abordé, si imaginons que je travaille sur le droit du changement climatique et que tous les financeurs seraient les plus grandes entreprises qui produisent des émissions de gaz à effet de serre, je crois que dire non, c'est sûrement entraîner des recherches peut-être moins confortables. Mais pour autant, je crois que ça en vaut largement le coup. Et puis on peut aller aussi jusqu'en justice et défendre son nom devant un juge qui, là, peut-être tranchera le conflit.
Bakary Sakho, vous êtes prêt à aller jusqu'où ? Vous travaillez dans un quartier où les gens se connaissent aussi, où il est difficile peut-être parfois frontalement de s'opposer, de dire des choses ? Je ne sais pas.
Régulièrement, on va subir différentes pressions, qu'elles viennent directement des gens que ça arrange, que ça soit de la municipalité ou voire même un peu plus haut dans la hiérarchie politique. Mais moi, j'ai un discours qui est plutôt très simple. Je préfère vivre dans la pauvreté et la liberté que mourir dans la pauvreté et la liberté que de vivre dans la honte et contre mes propres valeurs. Je suis pas quelqu'un qui suis prêt à danser avec une peau de banane pour couvrir mes parties intimes, parce que derrière, il y a la possibilité de devenir propriétaire ou de passer à la télévision. Je ne suis pas à vendre. Je suis un homme qui ne suis pas à vendre. Donc je vis à travers des valeurs.
Merci beaucoup, Bakary Sakho. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à vous tous d'être restés pour cette ultime discussion. Hervé Gardette.
Ultime discussion, comme toutes les autres d'ailleurs auparavant, qu'on peut évidemment réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pourrez également voir la vidéo, puisqu'il y avait ce soir une captation vidéo ici au Centre Pompidou. Format exceptionnel, forcément beaucoup de remerciements. Julie
oui,
Gacon.
Un grand merci à Marine Beccarelli qui a préparé ces 5 rencontres, ainsi qu'à Antoine Tricot, Véronique Villa pour la réalisation. Tout le dispositif technique, l'équipe technique, Yvon Charby, Andreas Jaffré, Thomas Robin, Romain Luquien, c'est Pascal Morel. Et puis merci au Centre Pompidou pour son accueil et à l'Institut français qui organise la Nuit des Idées. Il est 19h59 sur France Culture. Merci à vous tous pour votre présence. Merci et votre écoute.